Édouard,
il est où, Édouard?
Vous êtes sûr qu'il est parti pour le travail?
Le pauvre
Édouard voyage.
C'est comment le Brésil?
De 7h à 9h, Édouard Baird, plus près de toi.
Voyage, tonton Édouard.
Merci les enfants. Bonjour à tous. Dans la vie, tout est une question de point de vue, d'où on voit les choses, d'où on parle. J'ai décidé de m'éloigner, j'avais le choix sur la carte du monde. Je suis tombé à Rio de Janeiro, tout en restant en contact, bien sûr, plus près de toi. Ça n'a rien à voir avec la géographie. Je suis là en direct avec toutes les équipes de Radio Nova. Plus de 2000 personnes me permettent de faire ce duplex d'un luxe inouï. Quand vous regardez votre radio là ce matin, vous voyez une ambiance extrêmement carioca. Et pour vous souhaiter une belle matinée ici on est en train de se coucher, mais j'ai réussi à trouver Benny, qui est un grand chroniqueur de foot de Radio Cristal ici, qui va nous commenter le match par Rio à 7h du matin. Benny, quels sont les résultats du match pour ouvrir l'émission ce matin?
Para você que está ouvindo a Rádio Nova, a partir de agora, acompanhar a grande partida entre Rio e Paris. E Lolo pegou a bola, passou para Lolo, Lolo passou para Lohan. E olha o gol, 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 gol!
2-0, Paris a gagné. A tout de suite.
Bravo!
Paris paraît. A tout de suite, les gars.
L'année 2016 a été une année terrible pour les droits de l'homme dans le monde et très préoccupante en France. C'est le constat d'Amnesty International qui publie son rapport annuel ce mercredi. L'association a même pour l'occasion, exceptionnellement, choisi de présenter son rapport à Paris. D'habitude, c'est en Grande-Bretagne que Amnesty présente son rapport, estimant que le contexte préélectoral en France apporte un fort écho à son analyse. Amnesty s'alarme en particulier de la montée des discours politiques xénophobes et extrémistes. Selon l'association, au nom de la sécurité, le respect des droits fondamentaux de pans entiers de la population a été relativisé dans les discours comme dans les actes.
Et tout à l'heure, Thierry, à 8h-20, on fera le point avec Jean Stern, qui est rédacteur en chef de la chronique, qui est la revue d'Amnesty International, tout à l'heure, donc ici, dans Plus Près de Toi.
Après le père et la mère, je demande...
J'ai entendu ce que vous avez dit là. Les choses, c'est pas sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Ne promettez pas au public, ne faites pas rêver les gens, Thomas, tout de suite, en disant que, vous voyez, rien n'est sûr.
Peut-être sera-t-il là.
Avec ce qui se passe, là, ici, on est en train de parler de ça. Enfin, on sort du journal.
Ce qui est sûr, par contre, c'est la mise en examen dans une affaire de fraude fiscale d'Alexandre Balkany, fils du couple du même nom. Et il est en détention provisoire depuis lundi, ça c'est sûr aussi, hein, en raison du non-paiement de la totalité de la caution de 100 000 euros dont il devait s'acquitter, on l'a appris ce matin. On en vient à la présidentielle. François Bayrou fera connaître cet après-midi vers 16h30.
Il y a un truc plus facile, excusez-moi d'intervenir dans le journal. Écoutez, on l'a appris ce matin. On imagine un mec qui se lève le matin, il est chez lui et il a tout à coup, la nouvelle qu'il a prise, c'est que fils Balkany, chérie, tu te dépêches, vas-y, laisse-moi la salle de bain. Non, je ne peux pas, je viens d'apprendre que le fils Balkany est mis en examen. J'aime bien l'idée que ça intervienne dans nos vies intimes chacun.
Ah, faut bien,
on
a zéro.
Sans nous un fils Balkany dont il faut s'occuper. Pardon, je sors du coup.
La présidentielle, donc François Bayrou fera connaître cet après-midi vers 16h30 s'il est ou non une nouvelle fois candidat à cette présidentielle. Alors il oscille entre 5 et 6% d'intention de vote. Et ça donc du coup, pour le coup, c'est pas sûr. TF1 sera la première chaîne à dégainer à 35 jours du premier tour de la présidentielle. La chaîne organisera, ce sera le lundi 20 mars, un débat en direct avec François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. TF1 qui a fermé la porte à une codiffusion avec France Télévisions. Du coup, cette dernière a annoncé son propre débat. Ce sera le jeudi 20 avril, c'est-à-dire 3 jours avant le premier tour, incluant cette fois tous les candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour cette présidentielle. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a d'ailleurs déjà fait part de ses craintes concernant un déséquilibre fort que créerait le débat de TF1 dans l'exercice du pluralisme. Le Canada va accueillir cette année 1200 réfugiés yézidis d'Irak persécutés par le groupe État islamique. 400 réfugiés yézidis sont déjà arrivés en territoire canadien. Depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement de Justin Trudeau en novembre 2015, le Canada a accueilli plus de 40 000 réfugiés syriens. Les dockers espagnols vont observer 9 jours d'arrêt de travail entre le 6 et le 24 mars pour protester contre un projet gouvernemental visant à autoriser l'embauche dans les ports de travailleurs non syndiqués. Les suites des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions de football avec un match complètement fou. Les Brésiliens qui ont regardé ont dû apprécier. Hier soir, entre Monaco et Manchester City, Monaco s'est finalement incliné 5-3 sur le terrain des Anglais. Monaco qui va peut-être regretter longtemps son pénalty raté, hein, qui lui aurait permis de mener 3-1 et qui aurait sans doute changé la physionomie du match. De son côté, l'Atlético Madrid est allé s'imposer 4-2 sur le terrain de Leverkusen. Ce soir, Porto attend la Juventus et puis Séville attend Leicester. Ensuite, ce sera les matchs retour d'ici quelques jours. Il y a aussi de l'Europa League de football. Alors, c'est la petite Coupe d'Europe, on va dire. Saint-Etienne reçoit Manchester United ce soir. Match retour des 16e de finale. Ça s'annonce extrêmement compliqué, hein, puisque Saint-Etienne a perdu au match aller en Angleterre 3-0. Et puis, il y avait un match en retard de la 21e journée de Ligue 1. Hier soir, Caen a battu Nancy 1-0.
Ça me fait, c'est bien, ça fait plaisir Thierry, parce que vous avez réussi à faire, enfin vous faites un vrai journal français, vous êtes plus long sur le foot que sur tout le reste de l'info, et ça c'est beau. Justement, je suis en terre de football ici, puisque je suis avec les Marseillais de Rio. Vous savez, à l'heure où Paris se lève, Rio se couche. Je suis avec Laurent et Romain de la Canastra, qui est le bar en ce moment où les gens vont boire des conversations, et Romain me dit: je connais le fils Balkany. Tu m'as dit: je l'ai connu
il y a 20 ans, je l'ai connu.
Écoutez, voilà, on est au cœur du scoop, on est au cœur. Tout ça, qu'est-ce qui se passe à la Canastra? C'était noir de monde.
Ah, c'était beaucoup d'émotions quand je l'ai connu. Hein. Et je me rappelle, il m'avait prêté une cassette des Lakers.
Hein? Le fils Balkany.
Je ne l'ai plus jamais revu. Hein. Je suis content de ne plus l'avoir revu.
Tout ça, c'est cadeau. Il faut se lever ce matin avec ces informations-là. Les gars de la Canastra, allez tous vous coucher. Vous n'êtes pas un modèle pour les amitiés franco-brésiliennes. Je vois aussi, vous êtes des exemples. Tito, je sens que tu as ta guitare, je le vois dans mon écran Skype. Est-ce qu'on a la météo de 7 heures?
On a la météo de 7 heures, ouais, bien sûr. Ça va, Edouard? Attention! La 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 la. Alors aujourd'hui, eh bien, dans le nord de la France, comme hier, il pleut. C'est identique, c'est pareil. Alors que dans le sud, eh bien, il y a un peu de soleil qui se cache derrière les nuages. Les températures, à Angers, entre 8 et 12. Avignon, entre 5 et 19. À Clermont-Ferrand, 4 et 17. Dreux, 8 et 12. Évreux, 8 et 12. Laval, 8 et 12. Limoges, 4 et 12. À Marseille, entre 6 et 19. Poitiers, entre 6 et 12. Saint-Étienne, entre 3 et 16. Et Rion, entre 24 et 33. Bande de chanceux. La 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 la
la la la la la la la la la la la la
la la la la la.
Alors, côté information, Atmen, je peux vous dire qu'il est 7h12 et que c'était Tribe Called Quest à l'instant avec le titre Enough.
Magnifique.
Ouais, c'était bien. Bah, Edouard, vous êtes là.
Oui, Edouard. Ouais,
parce que je ne vous vois pas. Je ne sais pas qui est en studio.
Si, si, là, tu nous vois ou pas?
Exil, oui, j'ai cet exil géographique, vous savez. Parce
non,
qu'on essaie de faire Nova Brésil. Mm-hmm. Et pour le moment, ce n'est pas du tout au point parce que ça n'existe pas ici. Alors, est-ce qu'il y a le club des connoisseurs
de la
Oui,
il y a le club des connoisseurs de la
Alors, si j'ai. S'informe pour vous, lise pour vous. J'écoute la musique qui est en ré bémol. Messieurs, dames,
bonjour.
Je sais qu'hélas, peu de dames acceptent de se lever pour faire cette émission en ce moment. Qu'est-ce que vous avez retenu de la lecture de la presse ce matin?
Alors, Edouard, il y a une information brésilienne qui est tombée dans la presse française, dans Libération ce matin, une petite brève à propos d'une nomination à la Cour suprême du Brésil. Et très manifestement, ce sera Alexandre Moraes qui va être nommé à la Cour suprême du Brésil. Pour y être nommé, la Constitution exige un savoir juridique notable, d'une part, et une réputation irréprochable. Or, il se trouve qu'Alexandre de Moraes... Et en ce moment, accusé de plagiat, de corruption, de violation des droits de l'homme. Et pourtant, le président Michel Temer insiste pour que ce soit lui qui soit nommé à la Cour suprême. Il se trouve que Temer, le président, et puis donc Alexandre de Moraes sont tous les deux, en tout cas leurs deux partis qu'ils dirigent, le parti du mouvement démocratique pour Michel Temer et le parti de la social-démocratie pour Alexandre de Moraes, sont en ce moment poursuivis dans une enquête, l'enquête dite Lavage à taux, Lavage Express sur les détournements de fonds au sein du groupe pétrolier Petrobras. Voilà, donc ça veut dire que l'ambiance politique au Brésil, là où vous êtes, Edouard, en ce moment...
C'est toujours l'ambiance
post-coup d'État, en quelque sorte.
J'en croque un petit peu. Moi, ce que j'aime bien dans
Petrobras,
ce matin, que derrière cette information qui a l'air sous, bien sûr, un voile d'austérité, qui a l'air d'avoir une réalité un peu inquiétante, il y a de l'espoir. Où, on ne le sait pas encore,
faut chercher.
Derrière, il y a bien sûr
même,
un sourire.
Même
un
la
sourire
photo est inquiétante.
Dans cette mauvaise nouvelle. Et puis, on peut peut-être parler de la parenté, peut-être avec Vinicius de Moraes, d'Alexandre.
Vous cherchez l'espoir, vraiment, dans les détails. Oui, peut-être.
l'espoir est dans les noms propres. Ahmed Khalif, oui. Est-ce que vous êtes réveillé ce matin?
Non, parce que j'avais une fièvre. Je suis à l'amoxicilline et au Soluprède, là.
On est donc parti sur un antibiotique. Hein, oui. Vous avez pris le générique? Vous avez contacté un médecin familial? On est sur un médecin plutôt...
Je suis passé par mon dentiste.
Urgence. C'est votre dentiste qui est aussi votre vétérinaire
qui me donne de tout et m'a donné du Soluprède et de l'amoxicilline. Et ça me fait du bien.
L'avantage, c'est que ce n'est pas les mêmes tarifs, déjà, parce que vous avez le tarif dentiste animalier.
Oui, voilà.
Et ensuite, tout de suite, vous avez un antibiotique, ça va être sur 6 jours
C'est 6 jours. 3 ce matin, pendant 3 jours, 2 pendant 2 jours, et 1 le dernier jour. Voilà.
Et en Soluprède, donc, qui est à base de cortisone, vu votre poids, il faut quand même 80 à 100 mg.
Oui, et pas boire d'alcool, il m'a dit.
Donc, passez le micro à quelqu'un d'autre.
J'ai pas fait ma nouvelle, mais je la ferai après, voilà.
Ouais. Alors moi, j'ai une bonne nouvelle. Manger du jambon, ça désaltère. Alors, c'est une étude très sérieuse qui a fait ça. C'est-à-dire que quand on mange du jambon, ça donne envie de boire. Et donc, boire désaltère. Donc, manger du jambon, mais ça désaltère. Voilà.
Ok, Tito. Ouais. Moi, j'ai rien contre vous, personnellement. Ouais. Rien au contraire, je vous défends. Il y a beaucoup de hiérarchie, il y a des gens qui vous cherchent. Il y a des mouvements véganes assez offensifs aussi.
Mais c'est pour le salon de l'agriculture.
Par hasard, j'ai donné vos coordonnées et le code de votre immeuble. Mais là, j'irai jusqu'à donner votre étage et quelle porte c'est sur le palier. Voilà.
D'accord.
Yarno,
c'était quoi votre nouvelle?
Non, moi c'est juste un homme sur un marché en Dordogne qui a été condamné aujourd'hui à 4 mois ferme puisqu'il a agressé le maire avec une carotte. Il l'a poursuivi sur le marché et essaie de le frapper avec une carotte. Voilà, je trouve ça. Il a pris ce qu'il avait sous la main, donc dans le marché il a trouvé une carotte et il a essayé de le frapper. Juste pour conclure, est-ce qu'une carotte rend aimable? Apparemment non. Voilà,
donc il y a c'est bien parce qu'au début il y a une info insolite, il y a une petite chute en forme de gag,
voilà.
Et puis il y a aussi une interrogation, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce sont des coups portés au visage? Est-ce que je vois une vraie... Oui, c'est intéressant.
Il y a une belle cruche, c'est Soluprède ça.
J'avais une nouvelle aussi, bonsoir.
Oui, Arnaud Aymar, vous êtes le fils François. De Madame Aymar. Oui.
Ne parlez pas comme ça de ma maman. Donc c'est Wonder Woman qui s'est fait virer de l'ONU parce qu'elle était ambassadrice de l'émancipation des femmes et des filles. Et en fait, elle était trop déshabillée. Elle avait été choisie comme symbole pour défendre les femmes.
Le personnage de fiction de Wonder Woman.
Ouais, oui. Et puis la vraie personne de Wonder Woman, elle existe. Elle existe, Wonder Woman.
Comme Mariam, comme Marianne.
Mais elle existe. Elle existe.
Non, attendez, soyez pas trop sensible. Non, alors.
Non, d'accord, je suis pas sensible. Non, je suis pas sensible.
Wonder Woman est sans doute la création d'une équipe de scénaristes et dialoguistes, mais il y a sûrement une personne qui l'a incarnée à la suite d'un casting, qui est une comédienne, et c'est peut-être à elle que vous faites allusion.
Non, je voulais parler de la vraie Wonder Woman, celle qui
sort avec Superman. Le Père Noël, oui. Le Père Noël, oui. Il existe, on l'a reçu après les fêtes. Mais Wonder Woman, là, je peux pas vous suivre. Je peux pas. On peut pas faire ça. Vous savez
pas
ce que c'est que
les gens.
Non, mais c'est les gens se réveillent. D'entendre 5 cons leur dire que Wonder Woman n'est plus l'image de la libération.
Mais c'est vrai,
vous
en plus.
Pas... C'est une... Moi, je propose, avec l'accord d'Armel et à 10 000 km, un mélange de pub et de musique avant de se reprendre en main.
Très bien, moi je suis d'accord.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi?
Plus près de toi, non là, pardon, mais je suis pressée là.
Tout doux, tout doux. Toute une petite musique caressante. On est là ce matin dans une ambiance tendresse, caresse, avec Thomas Baumgartner, un ancien mannequin reconverti dans le journalisme, la radio et la culture. Thomas, comment ça va ce matin?
Ça va bien. Mais je pige encore de temps en temps dans certains défilés.
C'est bien. Mais vous aviez arrêté vos études en troisième année de mannequinat, ce qui fait que vous n'avez jamais eu la maîtrise.
Pas le master, vraiment. Non plus. Non, pas le master.
Il y a des parties de votre corps qui n'ont pas accédé au mannequinat.
Oui, je me suis arrêté aux mains, c'est ça qui est embêtant.
Oui, qui sont restés dans le civil. Mais vous avez organisé des coups de fil, vous avez profité de mon absence pour aller plus loin, plus fort, plus longtemps.
Oui, on est en téléphone avec Ludovic Lamant, qui est journaliste à Mediapart et qui a publié l'année dernière un livre sur les nouveautés politiques espagnoles, Squatter le pouvoir, les mairies rebelles d'Espagne, qui était paru aux éditions Luxe. On voulait lui parler parce que ce week-end, il y a eu une gigantesque manifestation dans les rues de Barcelone. Il y a eu entre 160 000 et 500 000 manifestants, selon qui parle, dans les rues, avec cet appel-là qui était la volonté de vouloir accueillir plus de réfugiés à Barcelone. Bonjour Ludovic Lamant.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est quand même assez paradoxal, inattendu en tout cas, ce type de manifestation. C'est quoi? C'est dû à un esprit barcelonais, catalan en particulier, d'après vous?
Ouais,
en tout cas, il y a un terreau particulier en Catalogne sur ces questions-là depuis très longtemps. Ce qui se passe, c'est que depuis 2015, à Barcelone, à la mairie, il y a une plateforme citoyenne qui a été élue avec la maire de Barcelone, Ada Colau, qui est une des figures issues un peu du mouvement indigné. Et elle a été élue clairement sur un programme qui dit notamment qu'il faut accueillir davantage de réfugiés, davantage de migrants, contre l'avis du gouvernement de Madrid. En Espagne, à Madrid, c'est la droite qui est au pouvoir. Et donc il y a un jeu aussi où Ada Colau essaie de faire pression sur l'agenda national pour dire que l'accueil des réfugiés, l'accueil des migrants, il faut en faire davantage et qu'elle est en désaccord avec la politique espagnole là-dessus.
Il faut dire qu'il y avait eu une promesse d'accueillir, alors selon les chiffres que j'ai trouvés, entre 10 700 ou 17 000 réfugiés, dont 4 500 en Catalogne. Et aujourd'hui, c'est loin d'être atteint ce chiffre-là.
Oui, absolument. Alors en fait, ça, c'est les chiffres que chaque pays s'était engagé... auprès de la Commission européenne, qui avait demandé ce qui est des quotas de répartition des réfugiés dans toute l'Europe. L'Espagne avait dit « Ok, je vais en accueillir autant ». Et en fait, il n'y en a pratiquement aucun qui a été véritablement accueilli en tant que tel. C'est juste tout simplement là parce que Mariano Rajoy, le chef du gouvernement, vient de faire deux campagnes pour les législatives. Il y avait des élections en décembre 2015, il y en a eu d'autres en juin 2016. Et c'est clairement pas dans son programme d'être plus progressiste sur ces questions-là.
Est-ce qu'on peut considérer, Ludovic Lamant, que ce type de manifestation comme celles qui ont eu lieu ce week-end, c'est la poursuite d'une forme de réussite du mouvement indigné qui est une particularité espagnole ?
Oui, absolument. En fait, moi, ce que je trouve vraiment passionnant dans ce qui est en train de se passer dans ces mairies, il y a Barcelone, mais il y a aussi des plus petites villes, il y a aussi Madrid, il y a des plus petites villes en Galice, il y a Saragosse, il y a des villes en Andalousie qui ont été remportées par des plateformes qui viennent du mouvement indigné. Et ce qui est assez beau, en fait, c'est qu'elles arrivent aussi, elles ne sont pas que dans des questions hyper locales. Elles s'occupent de ça, elles proposent par exemple le lancement de monnaie locale, elles proposent l'utilisation d'Internet pour interagir avec les élus, etc. Mais elles n'oublient pas les enjeux nationaux et surtout l'Europe. Et en fait, c'est des mairies et des maires qui sont à la fois nouveaux sur la scène politique, qui ont participé au 15e, donc ce qu'on appelle le mouvement indigné en Espagne, et en même temps qui parlent beaucoup de l'Europe qu'il faudrait réformer. Par exemple, sur les réfugiés, c'est évident, mais il y a d'autres sujets. Je pense par exemple à la question des traités de libre-échange. C'est souvent Barcelone, en Galice, etc. Il y a en ce moment des réunions, des débats sur comment faire un commerce autrement, comment réinventer ces questions-là, qui sont en fait des questions aussi européennes. Et donc ce jeu d'échelle me plaît beaucoup aussi à observer.
Est-ce que Ludovic Lamant, c'est assez unique, ça, non ? J'ai l'impression que toujours quand il y a des manifestations, c'est des populations qui veulent que leur gouvernement se durcisse, dit « ça suffit, fermez plus, soyez plus durs ». L'idée qu'il y ait une manifestation pour ouvrir plus de portes, pour accueillir plus les gens, c'est assez unique, non ?
Absolument. Oui. Après, moi, je crois que ça, c'est vraiment l'esprit des indignés d'il y a 5 ans. C'est-à-dire qu'il y avait une partie de dénonciation du système et de « on est contre les politiques d'austérité, on est contre la corruption ». Mais c'est aussi un mouvement qui a généré des dizaines et des dizaines d'associations de très concrètes sur comment on va faire autrement. Et par exemple, là, un des exemples qui prouve que Barcelone, par exemple, la mairie de Barcelone n'est pas que dans la contestation, c'est qu'ils sont en train de tester des monnaies locales dans les quartiers les plus pauvres de la ville pour essayer de combler ou de contrer les politiques d'austérité. Donc il y a plein d'initiatives comme ça qui sont à la fois très concrètes et qui montrent qu'il y a un état d'esprit qui n'est pas juste, une opposition un peu caricaturale et facile.
Voilà. Ludovic Lamant, pardon, Edouard.
Ouais.
Je vous en prie, Thomas.
Non, mais une dernière question justement sur la question de l'identité de la Catalogne. Et en ce moment, il y a eu un rapprochement il y a 2 jours entre la Catalogne et la région Occitanie en France. Ouais. Et ça a été l'occasion pour la Catalogne de réaffirmer une éventualité de référendum pour l'autonomie ou l'indépendance. Est-ce que vous faites un lien, on comprend que ces manifestations, c'est une opposition aussi au gouvernement central. Est-ce que vous faites un lien entre cette identité régionale très forte de la Catalogne et ces manifestations ?
Ouais, absolument. En fait, et avec le mouvement indigné en partie. Alors en fait, c'est un sujet compliqué, mais c'est vraiment passionnant. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des indépendantistes catalans qui veulent l'indépendance juste parce qu'ils estiment qu'ils payent trop d'impôts. Et ceux-là sont pas forcément la dynamique politique la plus intéressante. Mais à côté de ça, la maire de Barcelone, des gens autour de Podem, la déclinaison catalane de Podemos et compagnie, eux disent, nous, on veut récupérer le droit à décider, c'est ce qu'ils appellent, donc, parce qu'on veut être davantage consultés, on estime que c'est légitime d'organiser un référendum et on veut faire une rupture. Certains d'entre eux veulent faire une rupture avec les institutions telles qu'elles sont nées de la transition après la mort de Franco en Espagne, etc. Donc c'est une forme d'indépendance pour réinventer des institutions différentes. Justement, je parlais d'une nouvelle monnaie, mais aussi un autre rapport, par exemple, d'autres politiques sociales, etc., etc. Donc il y a des indépendantistes aussi de gauche et des indépendantistes qui disent « faisons l'indépendance pour réinventer des institutions plus démocratiques ». Donc c'est souvent, parce qu'en France, on a souvent tendance à caricaturer un peu certains pans du mouvement indépendantiste. Alors c'est vrai qu'il y a des trucs de populisme un peu sur « on paye trop d'impôts à Madrid, on n'est pas assez solidaire avec le reste de l'Espagne », mais il n'y a pas que ça. Et la maire de Barcelone, qui est assez ambiguë sur l'indépendance en tant que telle, elle milite pour qu'au moins on organise un référendum et que les Catalans aient leur mot à dire sur ces questions.
Voilà, ça,
et vous-même, vous avez l'air, Ludovic Lamant, vous avez l'air très gentil à vous entendre, donc je vais vous poser des questions. Est-ce que vous adaptez votre voix à la radio pour qu'on vous trouve gentil? Est-ce que vous êtes bien nourri, donc le bonheur vous rend gentil? Ou est-ce que vous faites semblant? Vous en êtes où de votre rapport à la gentillesse, Ludovic?
Je crois que ma gentillesse est en partie liée au fait qu'il est assez tôt ce matin. Et que,
oui, c'est ça. C'est... Voilà, je...
Merci
à part
beaucoup.
Nous, vous avez eu affaire à assez peu d'emmerdeurs, finalement, encore, c'est ça?
Mais la journée ne fait que commencer.
Voilà, c'est ça, exactement. Bon.
Merci Ludovic Lamant. Je rappelle votre livre « Squatter le pouvoir, les mairies rebelles d'Espagne », c'était paru il y a quelques mois aux éditions Luxe. Vous êtes journaliste à Mediapart. Bonne journée à vous.
Et puis on rappelle aussi, merci à Ludovic, la première leçon de la matinée, c'est « plus il est tôt, plus on est gentil ». À tout à l'heure.
Et c'est le journal de Thierry Paré.
L'année 2016 a été une année terrible pour les droits de l'homme dans le monde et très préoccupante en France. C'est le constat d'Amnesty International qui publie son rapport annuel ce mercredi. L'association a même, pour l'occasion, exceptionnellement choisi de présenter son rapport à Paris. D'habitude, c'est en Grande-Bretagne. Estimant que le contexte préélectoral en France porte un fort écho à son analyse, Amnesty s'alarme en particulier de la montée des discours politiques xénophobes et extrémistes. Selon l'association, au nom de la sécurité, le respect des droits fondamentaux de pan entier de la population a été relativement dans les discours comme dans les actes.
On en parle dans 10 minutes avec Jean Stern qui vient parler de ce rapport, Jean Stern d'Amnesty justement.
Mytho.
Après l'affaire Fillon, l'Assemblée nationale a publié sur son site internet les noms des collaborateurs parlementaires, à l'image de ce qui se fait déjà en fait au Sénat. La liste qui apparaît sous l'onglet « Nos députés » sera régulièrement actualisée. C'est ce qu'indique le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone. Ira pas. Réponse tout à l'heure vers 16h30. François Bayrou fera connaître cet après-midi s'il est ou non une nouvelle fois candidat à l'élection présidentielle alors qu'il oscille entre 5 et 6% d'intention de vote. TF1 organisera le 20 mars, un lundi, un débat en direct avec François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. France Télévisions fera la même chose, mais à ceci près que ce sera d'abord le jeudi 20 avril et surtout avec l'ensemble, le jeudi 20 avril, d'abord c'est 3 jours avant le premier tour, et ce sera avec l'ensemble des candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour cette présidentielle. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lui déjà fait part de ses craintes concernant un déséquilibre fort que créerait le débat de TF1 dans l'exercice du pluralisme. Le Canada va accueillir cette année 1200 réfugiés yézidis d'Irak persécutés par le groupe djihadiste État islamique. Le Canada a déjà accueilli plus de 40 000 réfugiés syriens depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement de Justin Trudeau. C'était en novembre 2015. Les dockers espagnols vont observer 9 jours d'arrêt de travail entre le 6 et le 24 mars pour protester contre un projet gouvernemental visant à autoriser l'embauche dans les ports de travailleurs non syndiqués. Après le père et la mère, je demande le fils. Mis en examen dans une affaire de fraude fiscale, Alexandre Balkany, fils du couple Balkany, est en détention provisoire depuis lundi en raison du non-paiement de la totalité de la caution de 100 000 euros dont il devait s'acquitter.
Et s'il n'avait pas... D'accord, donc c'est un faux jeu de famille. Parce que moi, j'ai vraiment cru, je suis auditeur, hein, enfin, je tiens à le dire, j'adore votre radio. J'aime bien l'émission là, de Boer. Mais vous avez dit, après le père et la mère, je demande le fils. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas un vrai jeu de famille.
Ah si, si,
c'est
on joue...
C'est une formulation...
Ah non, non,
en fait, attention, parce que vous savez, on est très fragile le matin.
C'est
et
vrai.
Si on croit qu'il faut sortir les cartes, on le fait. À tout de suite.
Et s'il n'y avait pas 7, mais 8 continents, des chercheurs affirment avoir découvert un vaste territoire presque complètement submergé dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, du côté de l'Australie. Un 8e continent baptisé Zealandia, un territoire de 5 millions de kilomètres carrés dont les parties émergées seraient composées des îles du nord et du sud de la Nouvelle-Zélande, ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Les suites des 8e de finale aller de la Ligue des Champions de football avec un match totalement fou hier soir entre Monaco et Manchester City. Monaco s'est finalement incliné 5-3 sur le terrain des Anglais. Il y a eu un quart d'heure de trop pour les Monégasques. Monaco qui va peut-être regretter longtemps son pénalty raté qui lui aurait permis de mener 3-1. Hier soir toujours, l'Atlético Madrid est allé s'imposer 4-2 sur le terrain de Leverkusen. Ce soir, Porto attend la Juventus et Séville attend Leicester. L'Europa League, Saint-Etienne reçoit Manchester United ce soir. Match retour des 16e de finale. Ça s'annonce très compliqué puisqu'au match aller, Saint-Etienne a perdu 3-0. Et puis la tribune visiteur restera vide à l'occasion du Classico entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain le 26 février prochain à 21h en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Pourquoi ? Eh bien, le préfet a pris cette décision parce que il a pris la décision d'interdire le déplacement des supporters parisiens parce qu'il y a un trop grand risque de troubles à l'ordre public. On parle de sport.
Merci Thierry Paret. Il est 7h34, c'est l'heure de l'invité de 7h34. Monsieur de Fursac, bonjour. Monsieur de Fursac, vous êtes ministre de la gentillesse du dernier gouvernement Cazeneuve. D'ores et déjà, François Fillon a dit qu'il vous reprendrait, ainsi qu'Emmanuel Macron, ainsi que Jean-Luc Mélenchon. C'est dire que vous faites l'unanimité. Comment décrète-t-on la gentillesse ? Combien de gardiens de la pieille ? Combien de gendarmes pour arriver à faire appliquer des règles de gentillesse aujourd'hui en France ?
Bien, c'est pas toujours évident. Et il faut d'abord une bonne formation des agents de l'ordre.
C'est-à-dire, vous partez beaucoup de l'idée d'anticiper. Si vous sentez la méchanceté, tant en appartement qu'en entreprise, vos gars interviennent, je dirais. Hein.
C'est ça. On intervient de façon molle, avec des oreillers, avec des comptines. Quand on voit que les gens sont réfractaires, on attaque avec des choses beaucoup. Des compliments. Des compliments, t'es beau. Tu vas bien, tu sens bon.
Vous n'êtes pas très convaincant dans votre
Non, parce que c'est vrai.
Sur votre marque de vêtements, monsieur de Fursac, des chemises, des blousons, des pantalons, vous équipez l'équipe de rugby française. Quelle est la tendance cette année ? Est-ce qu'on peut d'abord être ministre et vêtir les hommes ?
Bien sûr, puisque l'apparence permet évidemment d'avoir un pouvoir de séduction sur les électeurs et ça permet ainsi de séduire l'ensemble des gens qui... Comment ?
Vous êtes aussi un des spécialistes français de l'haleine, puisque vous êtes contrôleur en haleine en entreprise, et vous dites en ce moment, dans les entreprises, je sens des trucs d'un autre monde.
C'est vrai que ça, depuis la malbouffe, on a une azotification, on a beaucoup d'azote au niveau de l'haleine. Et voilà,
métiers que je vous ai proposés, c'est du dernier, vous êtes sorti le mieux sur le dernier.
Merci.
Très gros bisous. Je ne me pas de vous avoir. Ah, Jacques Souffert ?
On croise quoi ? On croise de tout ici ?
Oui, on croise de tout ici, oui.
C'est-à-dire ?
Les cuistots, les ménagères, surtout les ménagères.
On est dans les sous-sols de Paris, là c'est une ville sous la ville. Il y a carrément, donc on croise des cuistots, on croise des messieurs de ménage, on croise...
Mais pourquoi ils se cassent ?
Parce qu'avec Michel, on vient de livrer des... Qu'est-ce qu'on a livré là ?
Tout ce qui est sacs poubelles, les serviettes, tout ça pour les restaurants.
Michel, bonjour.
Bonjour.
Jack nous a dit que tout ça se passait en souterrain. C'est des activités un petit peu cachées. Pendant que la ville a l'air d'aller bien, il y a des mecs en sous-sol qui se baladent avec des sacs.
Ah bah oui, bah bien sûr, faut que ça vive dans Paris. Hein, en dessous. On est au deuxième sous-sol, là, on vient de remonter.
Mais vous croyez quoi ? C'est qu'on vous cache ? On a honte de vous ? Qu'est-ce qui se passe, Michel ?
Mais non, on travaille, monsieur.
Ah ben voilà, mais est-ce que vous... Comment ? Parce que très souvent, nous, on voit par exemple un truc qui est propre et on le rend sale et on le récupère propre. Donc, entre-temps, il y a beaucoup de gens qui sont intervenus.
Vous me faites rire, là. L'avantage,
je suis épuisé par ma propre question, Michel, je ne cache pas.
On pousse la porte, on y va, parce que en fait, je casse le rythme, je sens bien que je casse le rythme. Bah oui.
Mais hein, Michel, on est dans un hôtel, là, on est où ?
Au Boudabar, rue Boissy-Langlas, c'est un restaurant lounge.
Et qui a un rapport avec Bouddha, le sage
Non, rien à voir, c'est parce que c'est comme ça, quoi. Il y a un gros Bouddha, j'ai dû le montrer à votre ami, il y a un gros Bouddha de à peu près 2,50 m dans la salle, c'est comme ça que ça s'appelle Bouddha Bar. Mais il y en a aussi à New York, de ce restaurant-là.
Donc ce Bouddha, donc, il a essaimé ces restaurants, ces bars, parce que ça fonctionnait bien.
Voilà, exactement. Et je croise le monsieur de ménage. Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur.
Vous venez du Sri Lanka, on s'est croisé tout à
l'heure. Sri Lanka.
Bonjour, monsieur.
Sri Lanka, nettoyer, travail.
Ils ont été propres hier soir ?
Oui. C'est de nettoyer, ménage. C'est tout.
Est-ce qu'il y a des jours où c'est plus sale que les autres, monsieur ?
Ah ben je sais pas, il est reparti avec sa serpillère. Mais en tout cas, ce qui est bien avec les sacs poubelles en carton, c'est que ça casse pas quand ça tombe. Non, ça casse pas. J'ai rien qui se cache chez moi, heureusement. Et là, vous avez votre petit copain Popeye. Popeye, c'est mon chien, 15 ans, c'est un Jack Russell. 9 ans, excusez-moi. Voilà.
Et il vous accompagne ou il a un vrai contrat d'embauche, Popeye ?
Ah, il a un contrat d'embauche, lui. non, il m'accompagne. Ça fait 9 ans qu'il est dans le camion et il me protège.
Contre quoi, cher Michel, il faut vous protéger ?
Ben, il me protège parce qu'avant, je ne l'avais pas. J'ai livré une fois, je suis revenu dans le camion, le paquet de clopes avait disparu, mon téléphone. Avec lui, même s'il est petit, le mec, il ne rentre pas dans le camion.
Voilà. Ah, pas mal. Et c'est lui qui fume les clopes et qui téléphone. Donc ça reste
pas mal. Ouais, ouais. Et puis il me les roule aussi. et alors, cette rue, elle est. Parce que Michel, il court. Donc c'est compliqué. Et, la rue, c'est quoi ? Boissy-l'Anglais ? C'est la rue d'ambassade des États-Unis. Donc il y a en haut, là, je regarde, il y a un cheval avec, je pense, un révolutionnaire sur lui ou pour la fête de l'indépendance. Et puis il y a deux guérites, il y a des policiers qui gardent cette rue. Et puis un monsieur en face qui me regarde de chez Cartier, voilà, pour vous faire un petit peu l'image.
Je vois bien la situation entre les bijoux, entre l'ambassade d'Amérique, entre le chien de Michel. Vous êtes bien.
Oui, d'ailleurs, je vais voir ce monsieur directement. Voilà, j'ai passé un casque. Alors là, c'est vraiment, on ne sait pas parler. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous étiez en train de regarder les policiers, les livreurs.
Oui. Non, je travaille ici, dans la maison Lanvin.
Chez Cartier.
Non, maison Lanvin.
À Lanvin.
Oui.
Ça se passe bien.
Lanvin,
ouais, ça se passe bien, oui.
Cartier, ambassade des États-Unis.
Votre petit costume, il est très bien.
Merci, monsieur.
Je n'oublierai jamais cette phrase. Votre petit costume, il est très bien. À certaines heures du matin, quand on croit que la tendresse s'en va toute seule, il y a encore la gentillesse de Jack pour alpaguer un passant de hasard et lui faire des compliments sur un revers, une épaule, sur un plissé de pantalon, sur une taille bien prise, sur un corps bien épousé par son costume. C'est cette tendresse-là qu'on vous propose au même tarif que les autres radios. A tout de suite.
Nova. De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi ?
Bah, j'y vais à pied, j'habite à côté.
La radio s'appelle Nova. On écoutait le groupe canadien Timber Timbre à l'instant avec Curtains. 8h moins le quart.
Édouard, vous êtes toujours là ?
Je sais pas qu'il est au Brésil.
Au Brésil, il est 3 heures de moins et 50 ans de plus. vous êtes avec Jean Stern, vois.
C'est exact, Jean
Bonjour,
Stern.
Bonjour, Édouard.
Jean Stern, qui est rédacteur en chef de la Chronique, la revue d'Amnesty International France, qui vient nous rendre visite de temps en temps. On en parlait tout à l'heure dans le journal de Thierry Paré. Jean, c'est la sortie aujourd'hui, rendu public, le rapport Amnesty 2017 sur la situation des droits humains dans le monde. Bonjour à vous.
Bonjour.
Juste une question, parce que ce rapport est régulier, il est annuel.
Il est annuel,
voilà.
Absolument.
Il se fabrique comment, en fait, cet observatoire
Il observe un certain nombre de pays, 159 en l'occurrence, à travers un travail d'experts qui peut s'apparenter par certains aspects, d'ailleurs, au travail du journaliste, c'est-à-dire on va vérifier des faits, on va enquêter, on va recouper pour passer un panorama complet de la situation des droits humains au sens large dans tous ces pays qu'on inspecte.
Et vous avez, oui, des inspecteurs locaux, vous faites Amnesty fait des missions régulières ?
Missions, quand c'est possible, parce que souvent les pays ne sont pas ouverts, évidemment. chercheurs, enquêtes et recoupement de sources, puisque très souvent, c'est le gros du travail consiste évidemment à recouper les sources pour être sûr de nos informations, qu'elles soient fiables.
Alors voilà, un rapport pour regarder la réalité en face, en quelque sorte.
Ouais.
Il faut bien le faire de temps en temps, il faut bien que des ONG mettent des mots sur les actes politiques dans le monde. Alors, on va le faire aussi avec vous en parlant de ce rapport 2017, regardez les choses en face. Grosso modo, les droits humains sont en difficulté.
Ah oui, c'est ce qu'on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a une tendance générale qu'on voit d'ailleurs dans le comportement des gouvernements à l'égard des ONG proprement dites, puisque en Inde, en Russie, en Israël, en Égypte, en Hongrie, bientôt, il y a des lois qui sont prises contre les ONG pour les empêcher de travailler. Donc, globalement, il y a une tendance dans le monde à un grave recul des droits humains, des droits fondamentaux, à une montée de la violence, à une montée de la violence politique, à une montée des méthodes expéditives contre la délinquance. On parle beaucoup des Philippines, par exemple, où depuis un an, plus de 7000 personnes soupçonnées ou accusées ou mises en cause pour trafic de drogue ou simplement consommation de stupéfiants ont été abattus, dont une bonne partie d'ailleurs par les forces policières et paramilitaires.
Mais il y a un président qui se dit aujourd'hui, qui dit avoir tué lui-même des trafiquants.
Absolument, il y a un président qui dit lui-même avoir tué des trafiquants, donc on voit bien que là on est dans un contexte où l'extrême violence des autorités politiques justifie la violence contre les opposants, contre les dissidents, contre les gens, par exemple au Brésil, hein, puisque Édouard Rillet, contre les paysans qui défendent leurs terres, contre les grandes compagnies forestières et minières, enfin bref, là au Brésil l'année dernière, 47 morts hein, quand même de petits paysans tués pour avoir simplement défendu leurs terres.
Alors dans ce rapport d'Amnesty, Jean Stern, il y a un mot, c'est anti-système. Les responsables politiques qui se disent anti-système, il y a un parallèle avec justement alors pas forcément systématiquement une remise en cause des droits de l'homme, mais en tout cas vous dites des programmes nocifs, voilà, qui s'acharnent sur des groupes de population.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que il y a une montée en puissance à travers le monde. Alors c'est très curieux parce que les tendances politiques sont pas forcément exactement les mêmes. Hein. On peut pas plus faire une espèce de gros panier. Mettre tout le linchal ensemble, encore que des fois c'est utile, mais il y a une tendance de dirigeants populistes, nationalistes, qui au nom de la défense de leur pays, au nom de la défense de ce qu'ils appellent l'identité nationale, alors l'identité nationale dans le cadre de la mondialisation globale, elle est variable effectivement, hein, c'est pas toujours la même, mais on va défendre le pays contre les étrangers, contre les migrants, contre les opposants, alors là c'est un vaste sac, hein, les pauvres, les migrants, les musulmans, les LGBTI, puisque c'est maintenant le terme consacré. Bref, tout ça est assez navrant, hein, parce que finalement, la plupart du temps, le comportement des dirigeants de ces pays-là est un comportement, en fait, qui est un comportement brutal, qui est un comportement d'exclusion, qui est un comportement aussi de diabolisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui...
C'est le nous contre eux.
Nous contre eux, absolument. Ouais. Il y a une espèce de système comme ça où on va s'opposer très fortement et très brutalement à tout ce qui est voix dissidente et forme d'opposition.
Atmen, Khalif, vous avez une
question. Oui, une petite question sans cynisme. Est-ce qu'il y a un hit parade des pays justement qui ne respectent pas les droits humains? Et est-ce que la France en fait partie? Est-ce que voilà, c'est...
Alors, il n'y a pas de hit parade hein, parce que Amnesty se refuse à créer des hiérarchies comme ça. Ouais. Mais il y a évidemment des pays dans lesquels on traite beaucoup plus mal les opposants que d'autres. Hein, et puis il y a des pays où la peine de mort est encore pratiquée de manière massive. Arabie Saoudite, Chine. On se refuse, par exemple, à comptabiliser les exécutions en Chine parce que on n'arrive pas à avoir des sources fiables sur cette question-là. Alors la France, la France, malheureusement, c'est l'état d'urgence, c'est les violences policières, c'est le droit de manifestation, c'est les discriminations, c'est l'accueil des migrants. Bref, on peut dire que le rose est en train de virer quand même au noir en France. Hein, et qu'aujourd'hui, le bilan de ces dernières années fait qu'aussi en France, on regarde ce phénomène de diabolisation. C'est d'ailleurs pour ça que le secrétaire général d'Amnesty International a cette année choisi de présenter le rapport annuel en France.
D'habitude, c'est à Londres.
Ah, c'est toujours à Londres. Hein. Ouais. C'est même la première fois qu'Amnesty se délocalise à Paris ou ailleurs, d'ailleurs, pour présenter son rapport. Et c'est très symbolique, hein, parce que évidemment, on est inquiet de ce qui peut se passer en France aux prochaines élections présidentielles et de ce qui peut en sortir du point de vue du résultat, mais aussi parce que la France est quand même un pays très symbolique et que tout le monde regarde ce qui passe en France.
Mais dans la perspective de l'année qui commence encore, 2017, un espoir, c'est la question de la justice. Il y a un lieu de résistance à cette tendance-là, c'est l'institution justice.
Oui, c'est extrêmement intéressant d'ailleurs de voir que, y compris en France, hein, sous état d'urgence, finalement, un des principaux contre-pouvoirs a été les juges, la justice et leur capacité à défendre cette indépendance. Et pour nous, évidemment, qui sommes une organisation qui défend les droits humains, la justice, etc., le fait même qu'en France, aujourd'hui, le principal recours aux abus de droit, disons, soit les juges, est très intéressant. Puis il faut quand même dire qu'il y a aussi un contre-pouvoir qui est celui de la presse et des journaux et des médias et qui n'est pas négligeable aujourd'hui.
Comment on se procure le rapport Amnesty?
Alors, on le commande tout simplement. On peut le commander en librairie, on peut le commander sur le site d'Amnesty. C'est un document sérieux, argumenté, qui publie évidemment beaucoup de chiffres, y compris sur le Brésil. Et ça, peut-être Edouard sera intéressé.
Ne cherchez pas à me culpabiliser.
Pas du tout.
Il n'y est pour rien.
Je sais.
Je ne peux pas passer toutes mes vacances comme vous en Suisse. j'essaie de voir le monde. Mais je trouve que vous avez eu tort de dire que le rose passe au noir. Vous savez, il y a des éventails de couleurs. On peut passer par beaucoup de gris. Il y a des anthracites qui sont intéressants. Il y a des bleus, il y a des bleus clairs, il y a des bleus très foncés. Ouais. Certains noirs, par certaines lumières, ont l'air dorés ou argentés. Je sais que vous avez été l'amant de Soulages qui a beaucoup travaillé sur
mais
le noir.
Mais cela dit, le noir, c'est mieux que le brun, malgré tout. Donc, vous n'avez pas tout à fait tort.
Et ce qui va avec une marche aussi.
Merci beaucoup, cher Jean Stern. Si nous avions su que nous étions si heureux, nous l'aurions été encore plus.
À bientôt.
À bientôt, Jean Stern.
Merci.
7h, 9h, plus près de toi.
Mais oui. Ouah. Dis-moi, Mehdi.
Quoi?
Mehdi, qu'est-ce que ça va être quoi le mot que tu vas donner à ta maîtresse pour pas aller à l'école ce matin? Il y aura écrit quoi dessus, tu crois?
Que je ne pourrai pas aller à l'école parce que je vais à Paris réciter un poème.
Ah, est-ce que tu es venu exprès à Paris? Tu habites où?
À Rueil-Malmaison.
Et donc, tu penses que si on donne à la maîtresse, aujourd'hui, Mehdi ne sera pas en classe parce qu'il dit un poème à Paris, tu penses que la maîtresse, elle dit, bon, bah, c'est bon, elle ne va pas te gronder?
Non, elle ne va pas me gronder.
Qu'est-ce qu'il en pense, ton frère Nagy? Tu penses qu'on peut louper l'école pour aller dire des poèmes à la radio?
Oui. Oui.
Et qu'est-ce que... Donne-moi d'autres raisons, Najib, qui font qu'on ne va pas à l'école. Par exemple, si on est très malade.
Eh ben, c'est parce que si on est malade ou si on a vomi.
Oui. Il vaut mieux vomir à la maison qu'à l'école, en fait.
Oui, mais hier, il y avait quelqu'un, il avait vomi dans la classe des CE2.
Et comment tu l'as su? Parce que tu n'es pas en CE2, toi?
Oui. Qui te l'a dit? Oui, mais c'était une maîtresse. Elle avait demandé à ma maîtresse est-ce que je pourrais avoir une serviette pour nettoyer le vomi, puisque j'en ai pas, ou une lingette. Et moi, j'ai entendu ça, c'est comme ça que j'ai su.
Donc, à ce moment-là, l'information a circulé. Et comment les autres élèves ont réagi? Vous avez dit « Oh là là, le pauvre !» Vous avez dit « Oh, Berk, c'est dégoûtant !»
Il y en a, ils ont dit « Oh, Berk, c'est dégoûtant !» D'autres, ils ont dit « Oh, le pauvre !» Et d'autres, ils ont rigolé.
Qui a dit « Berk, c'est dégoûtant ?» Quel prénom, par exemple? Qui?
Maïdin.
Ah oui, ça ne m'étonne pas de lui, oui. Et toi, tu faisais partie de quel groupe? Le groupe plutôt sympa, qui disait « Le pauvre » ou...
Le groupe qui disait Berk dégoûtant.
Bon, enfin, c'est arrangé. Et toi, tu as déjà eu des problèmes à l'école, des petits boutons, des petits trucs? Non, tu as pas eu des maladies. Et vous êtes frères, les gars, tous les deux?
Oui.
Lequel est le plus frère de l'autre? Une des questions les plus métaphysiques de la journée. Vous êtes frères à égalité ou il y en a un qui est plus frère que l'autre? Cette question, j'en suis extrêmement fier.
Je ne sais pas.
Je vais me l'écrire sur un... Bougez pas, les gars, je vais me l'écrire sur un papier.
Oui.
Est-ce qu'il y en a qui est plus fier? Alors, il y a des poèmes ce matin et je vous propose un truc qui marche, que les autres en font beaucoup. C'est le petit jingle qu'Armel va vous mettre. Écoutez.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant, un poème.
Voilà, parce qu'on est, un peu vieille école, c'est-à-dire qu'on met le vomi d'un côté, la poésie de l'autre. Bon, enfin, on peut mélanger, hein, on n'est pas du tout. Alors, qui veut commencer? Mehdi ou Najib?
C'est Najib, normalement, qui doit commencer.
Alors, vous avez deux parrains, puisqu'à côté de vous, vous avez deux grands poètes. Atmen Khelif, qui est de la comédie...
De Warzazat.
Jean-Noël.
Bonsoir, je suis très content en tout cas de croiser ces enfants qui ont vraiment un sourire merveilleux, notamment sur la vie, et j'ai l'impression de naviguer dans les nuages quand je les entends.
Jean-Noël, vous me disiez avant qu'ils arrivent, dit quoi de plus beau que le sourire d'un enfant?
Oui, je disais ça parce que je vois pas qu'est-ce qui est plus beau, à part peut-être une cigogne qui pêche.
C'est moins joli,
mais c'était pour avoir un point de comparaison.
Ou alors un scarabée qui lit le journal. Mais bon, enfin, ça, c'est... Voilà, alors on écoute, on a dit que c'était Mehdi
Najib,
d'abord.
Najib d'abord.
Najib, on t'écoute, alors.
Avec ma bouche, je dis bonjour quand il fait jour. Avec ma bouche, je dis bonsoir quand il fait noir. S'il vous plaît, pour avoir ce qui me plaît, et merci si je suis poli.
Voilà, super. Bravo.
Monsieur
Sissonnois. C'est très joli.
Prenez-en de la graine, Jean-Noël.
Moi, j'ai plus de regard, tellement j'ai pleuré.
Voilà.
Et c'est à Mehdi maintenant, si vous voulez.
Hein Mehdi, alors.
L'étourdi A, B, C, qui a vu passer D, E, F, la tête à Joseph, G, H, I, quand elle est partie, J, K, L, elle a vu des ailes, M, N, O, pour aller là-haut, P, Q, R, voler dans les airs, S, T, U, n'est pas revenu, V, W, pour la retrouver, X, Y, Z, il faut que tu m'aides, de Michel Beau.
Ah, wow. Super, les gars. On vous applaudit tous les deux.
Bravo. On vous applaudit.
Formidable. On a pu refaire notre alphabet, là. C'est bien.
Dis donc, Najib et Mehdi, j'ai l'impression que ça s'est bien passé. Vous croyez pas ?
Oui.
Wow. Qu'est-ce qui vous donne cette impression-là ?
Que j'ai bien récité le poème.
Oui. Et ton frère ?
Aussi.
Je crois que ça mérite quelle note sur 200 ? 200 ?
200 sur 200 ?
Oui. 200 sur 200, vous avez la note maximum. Jean-Noël, vous avez écouté ces enfants, vous me dites « je déteste les notes » parce que la nature, elle ne donne pas de notes, elle embrasse sans condition.
Mais disons que les notes, pour moi, c'est les notes de la portée musicale, mais la portée musicale portée par les arbres, c'est-à-dire au moment où les feuilles s'entrechoquent et ça fait des notes, mais qui ne sont pas dans la gamme, mais qui sont des autres notes. Pardon, je vais peut-être trop loin pour le matin.
Vous êtes un fin observateur du monde enfantin, puisque vous avez écrit des très beaux livres sur, sur les enfants, dans les cours de récréation, sur la façon...
Enfant, tu marches.
Voilà, tous ces recueils-là qu'on ne trouve plus, hélas, dans le commerce.
Non.
Et est-ce que vous avez un poème qui a été interdit, parce qu'il y a des trucs de violence avec des bazookas. Vous voudriez dire un poème à Mehdi ou Najib ?
Je veux bien.
Les enfants, vous pouvez écouter. Et pardon, Jean-Noël, mais on vous notera sur 200 aussi.
Très bien, n'hésitez pas à me couper parce que je pense que...
Ça sera avec grand plaisir.
Je marche pieds nus.
Voilà, c'était super. Ah non, pardon. Vous êtes très apprécié au Brésil, hein, où je suis.
Merci.
Je marche pas pour vos poèmes. Hein.
Oui, je sais bien. Pour mon physique.
Votre activité.
Et ma barbe.
Pour votre activité. Et pour les magasins de yaourt. Alors on écoute, pardon, on écoute.
Je vous en prie. Je marche pieds nus. Je marche pieds nus à la vue, à la su de tous. Et tous le savent que je marche pieds nus. Je marche pieds nus au gré du vent, dans la tempête et dans les champs. Je marche pieds nus et je suis libre, sous la pluie ou sous la grêle, ou dans la tempête ou dans la grêle parfois. Je marche pieds nus sur la terre pleine et rondouillarde qui palpite sous mon poids de poète des champs. Et cette terre de délices vive comme de la compote, comme un cœur qui s'acharne, comme un lapin qui saute. Oh toi la terre odorante et meuble, je te caresse avec mes pieds et je n'ai pas honte de t'aimer. Tant tu m'envoûtes, tu chantes ton chant marron de terre, d'humus, de lierre. Et tant tu m'enlèves, tu me... Et tu me rends heureux alors. Alors
c'est trop.
Et qu'est-ce qui se... Alors ouais. Je marche pieds nus. Je marche pieds nus sur la pierre, sur les feuilles. Mes pieds n'ont pas le rosé rose, des roses arrosées. Car je suis vivant et sale, messieurs de la ville. Et avec vos salons où sont installés des coquers en argile peints avec des oreilles en poinçon.
Peut-être la suite la semaine prochaine parce que c'est beaucoup d'émotions. J'entends Atmen, là je vous ai...
Deux enfants qui ont très peur, ils se sont blottis dans un coin du studio.
Oui.
Ils sont tétanisés par Jean-Noël. Jean-Noël, faites peur aux enfants.
Est-ce que je vous ai dit que je marche pieds nus ?
Oui, ben oui.
Même quand je dors.
Combien mérite ce poème d'après vous ?
Le jeune homme
Strat.
Bof.
Une note.
Oui, vas-y.
Alors. Ouais.
Dis une note.
Deux notes.
Oui.
Deux notes. Merci, Najib.
Deux notes. Voilà.
Merci, Mehdi et Najib, de votre extrême patience
c'est
et tolérance.
Incroyable.
Face à la poésie adulte qui a tort. Jean-Noël, écoutons maintenant la poésie de Thierry Paret. Salut les garçons, bravo.
Le risque est que la France s'habitue à ce que ses droits, ce que des droits considérés comme acquis soient remis en cause. Propos signé Amnesty International qui juge l'état d'urgence injustifiable, inefficace et détourné de son objectif. L'association publie son rapport annuel ce mercredi, exceptionnellement à Paris. D'habitude, c'est en Grande-Bretagne. Amnesty estime notamment que le contexte préélectoral en France porte un fort écho à son analyse. L'association s'alarme en particulier de la montée des discours politiques xénophobes et extrémistes. Après l'affaire Fillon, l'Assemblée nationale a publié sur son site internet les noms des collaborateurs parlementaires À l'image de ce qui se fait déjà en fait au Sénat, la liste qui apparaît sous l'onglet « Nos députés » sera régulièrement actualisée, selon le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone. Ira, ira pas, François Bayrou fera connaître tout à l'heure, dans l'après-midi, vers 16h30, s'il est ou non une nouvelle fois candidat à l'élection présidentielle, alors qu'il oscille entre 5 et 6% d'intention de vote. Il n'y a pas que la Finlande qui expérimente le revenu universel, il y a aussi l'Allemagne avec une différence toutefois, de taille d'ailleurs. En Finlande, c'est l'État qui est à l'initiative de la mesure, alors qu'en Allemagne, c'est une association, une asso baptisée Mon revenu de base, je vous l'épargne en allemand. En 2 ans et demi, cette association a récolté plus d'1 million d'euros, soit assez d'argent pour distribuer un revenu de 1000 euros par mois pendant 1 an à 74 personnes. Un revenu universel qui n'est pas soumis aux impôts, mais dont le gain n'est cependant pas cumulable avec les minima sociaux. Mis en examen dans une affaire de fraude fiscale, Alexandre Balkany, fils du couple du même nom, est en détention provisoire depuis lundi en raison du non-paiement de la totalité de la caution de 100 000 euros dont il devait s'acquitter. Les patients atteints d'une affection de longue durée, on pense au cancer notamment, certains cancers, pourront se voir prescrire une activité physique adaptée par leur médecin traitant à partir du 1er mars. Un décret pose les modalités d'application de la mesure dite du sport sur ordonnance. Entre Paris et Monaco, les clubs français font le spectacle en Ligue des Champions. Hier soir, Monaco s'est incliné 5-3 sur le terrain de Manchester City en 8e de finale aller. Un match très enlevé, passionnant. Le dernier quart d'heure de la rencontre a été celui de trop pour les Monégasques qui ont totalement craqué. Durant la rencontre, ils ont mené 2-1 et ont perdu l'occasion de prendre le large en ratant un pénalty. De son côté, l'Atlético Madrid a mis les Allemands de Leverkusen à genoux. Les Espagnols se sont imposés 4-2 en Allemagne. Suite et fin des huitièmes de finale aller ce soir avec Porto Juventus et Séville Leicester. Il n'y a pas que la Ligue des Champions, il y a aussi l'Europa League. Saint-Etienne attend Manchester United ce soir. 16e de finale retour, ça ne va pas être simple puisqu'au match aller, les Anglais se sont imposés 3-0, 3 buts de Zlatan. Et puis en Ligue 1, le PSG est attendu à Marseille dimanche. Ce sera sans supporters parisiens. Ah oui, le préfet a choisi d'interdire leur déplacement en raison d'un risque trop grand de troubles à l'ordre public. On va rappeler qu'on parle de sport.
Oui, Thierry c'est je ne vous ai jamais entendu. Je ne sais pas s'il y a un changement de rédaction à Nova. Je ne vous ai jamais entendu aussi impliqué dans le foot ce matin.
Bah non, c'est parce qu'hier, il y avait vraiment un très, très beau match. Qu'on aime ou pas le football, je pense qu'on pouvait adhérer aisément.
Non, c'est pas du tout. C'est qu'il y a eu même un nombre. Vous nous avez vraiment fait voyager. Quoi. On était en Angleterre, à Sky, à Porto Alegre. Et vraiment, à travers le foot, je crois que vous voulez parler d'autre chose. Peut-être parler de vous, très simplement. Vous
êtes servi
du foot pour vous dévoiler. Est-ce qu'il n'est pas temps de demander à Tito de nous dire quelle est la météo ?
Je pense qu'on peut le faire autant qu'il est prêt.
Aujourd'hui, c'est la Sainte Isabelle. Toutes les filles sont belles. La 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 la. Alors aujourd'hui, après la Sainte Isabelle, c'est aussi les notes d'Agen. Entre 2 et 15, Avignon, entre 5 et 19. À Bordeaux, entre 3 et 15. À Boulogne-sur-Mer, entre 8 et 10. À Évreux, entre 8 et 12. À Marseille, entre 6 et 16. Montpellier, entre 6 et 19. Saint-Étienne, entre 3 et 16. À Vienne, entre 4 et 16. Et à Chicago, entre 8 et 21.
Chicago. Avec ma gueule de nana.
Au lieu de dire entre 8 et 21, ce qu'elle a pas fait, dit de 8 à 21, sinon on va croire que c'est une fourchette. On
est dans la. Édouard.
Oui, Atman.
Juste vous dire qu'il y avait le prix Georges Moustaki il y a 2 jours, que j'y étais, j'en parlerai tout à l'heure.
Ah, dans votre rubrique mondaine, que vous appréciez. Mais là, nous sommes dans la rue avec Jacques Souban qui se balade dans les rues.
Oui, c'est incroyable. Alors, vous m'entendez ?
Très bien.
Oui, j'ai quitté donc notre homme en costume Lanvin, et puis j'ai rencontré Ben Amar qui avait une démarche superbe, et il m'a dit « Je suis menuisier ébéniste à l'hôtel Crillon qui est en travaux ». Et alors l'hôtel Crillon, on est devant maintenant, on a marché un petit peu, ils ont construit des cabanons de chantier, on dirait un immeuble vraiment de 20 mètres, 30 mètres de haut, les cabanons pour les ouvriers, donc, qui est placé devant les colonnes de l'hôtel Crillon. Et vous, Ben Amar, vous venez pour, on vous a appelé, vous êtes intérimaire, vous venez pour poser des meubles, la menuiserie 18e, etc.
Oui, bonjour. En fait, effectivement, je suis menuisier ébéniste et en fait, je suis amené à faire des menus travaux, donc poser des appliques dans les salles de bain, poser les têtes de lit, livrer le mobilier, le déballer, le remballer pour la maison ANT.
Mais là, vous êtes modeste parce que vous êtes en fait un artisan d'art et vous vous occupez vraiment des meubles très anciens.
Oui, tout à fait. Enfin, en fait, oui, je suis ébéniste. Donc, les meubles de style, c'est mon truc. Et donc, je suis amené à travailler dans dans des lieux prestigieux. Aussi le crayon, Chanel, ah oui. Hermès, les belles boutiques de Paris. Donc, j'ai ce privilège d'être passé à l'école d'Alembert en Seine-et-Marne. Et donc, par la force des choses, je me retrouve toujours dans des lieux prestigieux. Et donc, j'ai rencontré votre journaliste qui m'avait l'air sympathique. Donc, je me permets d'arriver en retard aujourd'hui.
Ben Amar, soyez en retard, il vous fera un mot. On a déjà eu des mots des gamins de 5 ans qui ont dit à leur maîtresse qu'ils étaient en retard parce qu'ils disaient un poème à la radio, donc vous trouverez une raison. Donc là, ça change un peu la vie de se dire que quand on va bosser, c'est sur la plus belle place du monde, la place de la Concorde.
Ah, tout à fait, tout à fait. De toute façon, Paris, c'est une ville magique, donc on est toujours heureux d'aller travailler à Paris. Mais bon, quand on aime son métier, c'est encore, avec de l'entrain. Et donc, c'est que du bonheur, que du bonheur. Des gens sympathiques, un chantier formidable avec toutes les nationalités. Bouygues qui nous supervise, qui fait un travail formidable, formidable bien sûr, des pénalités et autres, mais bon, ça fait partie du jeu.
Merci, voilà. Merci Ben Amar pour votre belle humeur, vous avez dit du bien de Paris il y a quelques instants, ça tombe bien puisque mon invité à 8h11, c'est le maire de Paris.
Et c'est possible d'avoir un peu de Soviet suprême sur Nova ?
Vous aurez du Soviet suprême, vous aurez tout ce que vous voulez et vous aurez bien sûr notre assortiment cadeau. Le sandwich Radio Nova. Jean-Bernard, Jean-Bernard Lyon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire de Paris.
Je suis maire de Paris.
1981, vous êtes venu dans les bottes des socialo-communistes.
Hein, c'est-à-dire que je suis le vrai maire de Paris et les maires qui sont des comédiens. C'est que des
Jean-Bernard.
Comédiens.
Donc, maire de Paris, ce n'est pas un métier à plein temps. Vous me disiez, je fais ça le matin et l'après-midi, je suis beaucoup plus dans des activités de proximité, dans le commerce de détail, puisque je rappelle que vous êtes en fruits et légumes sur les marchés. En quoi ça consiste, en fait, la mairie de Paris ? On est là,
on est là, on dit, il y a quelqu'un qui arrive, il dit, on a un problème sur les champs. Bon, envoyez du monde.
Il y a un mec qui dit on peut pas circuler dans Paris rapport à
faites circuler j'arrive, je dis faites circuler.
En fait tout c'est simple quoi.
C'est pas si simple, faut savoir dire une phrase qu'on nous dit et la mettre à l'affirmative. On nous pose une question et on la met à l'affirmative.
Alors on a besoin de choses, vous savez, souvent les politiques on leur reproche
faites des choses.
Voilà. Donc il y a un mec qui dit ouais c'est dégueulasse parce qu'ils m'ont foutu voilà.
Moi c'est pas facile par rapport à cette phrase hein. Mais je dis faites-le.
Ouais. Quelqu'un qui dirait je peux pas et qu'ils m'ont foutu les trucs là alors c'est plus comme avant.
Enlevez-les ces trucs bordel.
Et quelqu'un qui dit ouais mais c'était mieux quand à l'époque.
Vous avez qu'à revenir un peu dans le passé.
Merci pour ce très beau moment de radio. À tout à l'heure.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi
Qu'est-ce que je dois te dire ? Mais qu'est-ce que je fais là ?
Atmen, vous n'avez pas fait votre chronique mondaine ?
J'allais la faire après. J'avais
vous
tout le temps.
Parce que
je suis allé au prix Georges Moustaki, à la Sosor, à la Sorbonne. et il y avait tout le gratin de la jeune chanson française, que des jeunes. Je me suis fait chier. Il y avait que des jeunes, voilà.
Et le champagne était.
Il y avait pas champagne parce que j'avais toujours mon passe au l'accès. Je suis passé par derrière. Il y avait du crément. C'est le retour du crément en ce moment. Du Red
c'est
Bull.
Quoi, c'est des blanquettes de Limoux.
Voilà, dégueulasse, pas chauffé. Les bus sont éventés. Il y avait un vin dégueulasse qui était de la vieille ferme, voilà, un petit rouge râpeux, et on avait c'était un homme en colère, il y avait de la Red Bull, alors que moi j'attendais un petit Dompé, ou alors une Vodka Grey Goose, il n'y avait rien du tout. Alors on m'a giclé, et puis en plus je pensais qu'il y aurait mon Jojo, mon Georges Moustaki, il n'était pas là. Alors je sais, voilà. Allô ?
Excusez-moi, vous savez.
Si je vous emmerde, vous me le dites, mon grand.
Bon, allez, Thomas, c'est top.
Ça fait plaisir.
Georges Moustaki, que j'aimais beaucoup, est mort, vous savez, il y a quasiment un an maintenant.
Ah, pardon.
Ah oui, là c'est tout à coup.
C'est la boulette.
Voilà, bravo. Non mais ce qu'on entend, dans ce qu'on entendait à l'instant, dans ce que disait Atmen, dans cette chronique mondaine, c'était une forme de tension entre les générations. Or, certains travaillent en ce moment à réduire peut-être le gap entre les générations et cette éventuelle tension. Et par exemple, Vox.org, V-O-X-E.org, qui est une organisation qui travaille justement à récolter des idées et une parole politique auprès d'une génération qui est la génération des 18-25 ans. Et dans Vox.org, dans l'équipe, il y a un certain Charles Defresne qui était avec nous. Bonjour Charles.
Bonjour.
Vous vous occupez de la Vox Academy, on va en parler dans un instant. Mais Vox.org, il faut peut-être dire que ça existe depuis 2012, c'est bien ça. Donc déjà une première campagne présidentielle derrière vous. Vox offre une boîte à outils pour tout le monde, pas que pour les jeunes générations, mais pour mieux comprendre le débat politique.
Exactement, oui. Nous, chez Vox, on a été créé en 2012 et on lutte contre la politique. C'est pas fait pour moi, j'y comprends rien, ou je suis perdu, je vais voter comme papa, ou j'ai pas fait Sciences Po, je peux rien comprendre.
Comme maman.
Ou comme maman, d'ailleurs. Ou j'ai pas fait Sciences Po ni l'ENA, de toute façon, la politique, c'est pas fait pour moi. Ouais. Et on essaie de créer des outils pour mieux comprendre la politique et s'engager plus facilement. En 2012, on a créé un comparateur de programmes politiques.
Ouais, qui existe toujours.
Qui existe toujours. Idée assez simple, puisqu'on fait la même chose avec les billets d'avion ou les machines à laver, mais idée assez chouette, qui a bien marché, puisque maintenant, on est dans 19 pays, et on a couvert 25 élections. Et pour l'année 2017, on a voulu faire plus grand, encore plus grand. Et donc, on a, sur notre plateforme internet, Vox avec un E.org, tout un onglet s'informer pour mieux comprendre les enjeux du débat, le comparateur, évidemment, un bot électoral sur Messenger.
Bot électoral. Hello bot, c'est ça ? Donc, un bot, c'est un robot, en fait. C'est un programme avec lequel on peut dialoguer. Donc, comment fonctionne votre Hello bot ?
C'est une intelligence artificielle sur Messenger qui est une sorte de coach personnel qu'on a dans la poche, toujours avec soi, et qui va nous donner les informations, l'essentiel de l'information à retenir pour mieux vivre l'année 2017, bien comprendre les échéances, l'inscription sur les listes électorales, les grands rendez-vous, et puis aussi les programmes des candidats ou l'actualité.
Donc en fonction des déclarations en ce moment, votre robot nous envoie des informations dans la poche pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Par exemple, le programme de santé de François Fillon a fait l'objet qui a été présenté hier, avant-hier, de remonter de la part de votre robot.
Voilà exactement, en gros, l'idée, c'est de donner les informations nécessaires pour suivre, pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller sur lemonde.fr tous les matins ou de suivre la matinale de toutes les radios de France. Et pour bien suivre et relégitimer chacun dans son rôle de citoyen et pour bien comprendre l'année et aller voter plus sereinement.
La Vox Academy, c'est quoi alors ? C'est ce dont vous occupez-vous particulièrement ?
Ça, c'est mon petit bébé. Et donc, la Vox Academy, c'est des ateliers, des formations pour mieux vivre, mieux comprendre les institutions. Donc, on fait des ateliers, là, en partenariat avec la mairie de Paris en ce moment, qui sont gratuits, ouverts à tous. Et puis, donc ça, c'est des formations qui réinventent l'éducation civique. Et puis, on a aussi un polka. C'est une méthodologie de débat, de rencontre. Ça se passe dans les bars. Ça dure 2 heures et on va parler de sujets politiques sereinement avec des inconnus.
Donc Vox.org, c'est pas que des robots, c'est aussi des rencontres dans la vraie vie.
C'est aussi des rencontres dans la vraie vie, parce que la politique, c'est aussi ça, c'est ce qui lie les gens, c'est dans la vraie vie, c'est la discussion au bar avec les potes, etc.
Édouard, j'ai cru entendre votre
donc,
voix.
Donc sur le programme de chaque candidat, si je m'interroge sur le programme santé de l'un, sécurité de l'autre, je tape, je veux voir et tout à coup je suis éclairci.
Exactement. Donc c'est sur notre site, on choisit l'élection, donc là ça sera l'élection présidentielle 2017, vous choisissez 2 candidats, une thématique, la santé pour, en l'occurrence, et paf, il y a toutes les propositions officielles des candidats qui arrivent et la comparaison est plus facile.
Alors, est-ce que vous avez aussi enquêté les promesses et les choses qui ont vraiment été réalisées par les gens élus ? Est-ce que ça, on a un vrai décompte de ça entre les promesses électorales et les choses appliquées ? Parce que parfois, on disait, tiens, Hollande, il a appliqué 30-40% de son programme. On peut quantifier des choses comme ça ?
C'est pas notre travail. Nous, on n'est pas des journalistes, donc dans le fact-checking, etc. Nous, on est plutôt là pour faciliter l'accès à cette information. Et tout ce qui est analyse, on laisse ça aux journalistes, décodeurs. Il y a le site Moi Président aussi qui est bien fait là-dessus.
Mais vous allez aussi récolter des idées auprès des futurs électeurs. Enfin, l'idée, en tout cas, est là. Au-delà de Paris, d'ailleurs, vous allez vous balader là bientôt.
Exactement.
Le Vox Tour, un Vox avec un E, il faut le dire, un Vox Tour.
Et exactement, donc on va partir le 25 mars en voiture, on sera dans un minivan, 7 jeunes, et pendant 3 semaines, on va faire le tour de la France, en allant dans les grandes villes, les quartiers périphériques et les zones rurales, pour organiser des débats, organiser des formations, faire des rencontres, des happenings dans la rue, etc. Et c'est notre idée d'aller sortir de notre zone de confort et aller se rencontrer plein de monde, plein de jeunes, et récolter les idées de ces jeunes pour le futur président.
7 jeunes dans un minivan, c'est un beau programme. Est-ce que vous irez au coup de la confort ? Est-ce que vous allez dormir en sac de couchage entassés les uns sur les autres ? Ou est-ce qu'on peut imaginer tout à coup quand même des débouchés hôtelières dans les régions que vous allez traverser ?
Charles Defresne.
On est jeune, on n'a pas le sou. Alors on fera au plus simple.
Vous avez des partenaires quand même.
On a les partenaires. Non mais on voit bien sur le couchsurfing, puis dans cet esprit-là de rencontre. On est pas mal dans cet esprit-là.
Et qui sort avec qui ?
Ça, on vous le dira le 17 avril.
C'est ça, oui, c'est du 25 mars.
Rien n'est joué au départ du van.
Mais il y a justement une web-série pour nous suivre et pour suivre les histoires d'amour. Donc sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, on fera un suivi de ce tour et pour justement avoir les propositions de chacun et puis les histoires d'amour des autres.
C'est important.
C'est, mais c'est bien, oui. Donc parce que politique et télé-réalité.
Allô, bonjour, c'est l'Oiseau Bleu. C'est juste parce que je voulais faire de la publicité, parce que je vais faire mon spectacle lundi, mais bon, peut-être c'est un peu autocrudent par rapport au fait de... J'ai pas réussi à rentrer dans mon personnage, mais...
C'est peut-être un peu tôt.
J'ai essayé, en fait.
Vous êtes arrivé comme un cheveu sur la soupe, et c'est bien, et vous avez raison, parce que tu t'en fous des conventions de la
bien
radio.
Bien sûr, je m'en fous.
Tu t'en fous.
Je m'en fous.
Alors, recommence.
Je suis libre. Je recommence. Il était une fois un oiseau qu'on appelait l'Oiseau Bleu. Elle jouera lundi au théâtre de 10h à 1h approximative, vers 21h. Elle est vraiment content, mais pas trop.
Je pense que non
c'est
seulement
pas génial, c'est pas génial.
Maman, et en plus, vous avez rempli votre salle. Merci l'Oiseau Bleu.
Merci Edouard. Vous êtes
merci,
vraiment
Charles
très fort de fruits.
Je sais très bien dire merci.
Moi aussi,
après, je suis un
merci.
Petit peu court.
Oui, moi, c'est pareil.
Il est temps d'écouter Marie Missé. Il est temps. Merci, Charles.
Alors, ici, la tour de contrôle à Paris. Je propose une page de publicité et ensuite la...
C'est
la
pas vous, ça. Armel.
Oui.
C'est pas toi, ça. Moi, je te connais. Je t'ai vu petit môme. Tu te débrouillais avec rien, quoi. Une pomme, ça te faisait une semaine. T'as pas besoin d'une page de pub. Refourgue-la aux autres radios, aux radios marchandes. Nous, on n'est pas là-dedans. Je veux dire, t'es pas dans la consommation.
Il y a du pour quand et du contre, hein, vous savez.
Quand tu pars, c'est pas la mer. T'as pas besoin de tout ça. T'as pas besoin. T'es là. Tu dors chez toi. Tu te laves pas. Tu t'en fous. Bon, allez, mettez la pub.
7h-9h, plus près de toi.
Plus près de toi, 7h-9h.
C'est où déjà plus près de toi? Tu savais, non?
C'est très très mignon, il y a des choses très mignonnes qui se passent. Coucou, qui est là? C'est Doudou, coucou. C'est Bébert. C'est l'heure de Marie Missé.
Oui.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Missé.
Bonjour. Bonjour Edouard, enfin bonne nuit.
Bonjour.
Je ne sais pas bien comment ça va à Rio. J'ai juste appris dans Libération ce matin qu'un ministre accusé de corruption, Alexandre de Moraes, vient d'être nommé juge anticorruption. C'est Michel Temer, l'actuel président du Brésil, qui a organisé la destitution de Dilma Rousseff pour corruption, qui l'a imposé, ce mec corrompu, à ce poste de juge anticorruption. Voilà. Autrement dit.
On n'est pas dans la revue de presse.
Ah si, si.
Ça a commencé.
Ah si, c'est dans Libération, ça. Ah, c'était pour vous donner des nouvelles à Rio.
D'accord. Je n'ai rien à voir avec tout ça, je vous laisse continuer. Moi, je suis juste là pour un tournage. Hein. Je n'ai rien à
Très
voir
bien.
Avec tout ça.
N'hésitez pas à en parler aux gens. Autrement, Merci. Dans la presse, la Grèce va mal, d'après l'Humanité. Ses créanciers réunis lundi sont toujours d'accord sur le remède de cheval qu'il faut lui imposer. Pourtant, Michel Sapin disait lundi soir, à la sortie d'une énième réunion de l'Eurogroupe, ça rassemble les ministres des Finances de la zone euro, les Grecs sont sortis de la spirale de l'autorité. C'est ce qu'il a dit. Alors, le ministre hollandais, lui, s'est bien gardé de confirmer cette affirmation du conifère et il a lâché cette phrase imbitable. Il y aura une translation, un déplacement de l'austérité aux réformes structurelles avec une marge de manœuvre pour les réformes croissantes. Voilà,
je suis d'accord, moi. Non.
Bah moi, je me suis dit que mon CAP en lettres modernes ne me permettait pas de comprendre de telles nuances. Et rassurez-vous, même le ministre allemand des Finances, qui adore l'austérité, Wolfgang Schäuble, n'a rien compris à cette phrase. C'est dire si elle noie le poisson. Dans la dernière revue 21, l'article « Les dossiers d'Olga » a en tout cas le mérite d'être très concret, plus concret que cette phrase, dans les conséquences de l'austérité, sur la Grèce. Olga, elle est avocate à Thessalonique et elle défend au maximum les déshérités de l'austérité. Pour Hélène Desplanques, auteure de l'article, Olga incarne la résistance. Ses clients ont revendu leur appart, leur voiture, s'enfilent des kilomètres en covoiturage. Des quadragénaires s'installent en masse chez leurs parents qui les aident avec leur retraite à 400 euros par mois. Levée de bouclier d'ailleurs l'année dernière quand le gouvernement de Tsipras a voulu les augmenter, ces mini-retraites. Il y a des maisons qu'on a dû vendre, des rêves auxquels on a dû renoncer, des projets qui se sont évaporés dans l'article « Le futur pour les Grecs, qu'ils soient jeunes ou retraités ». liberté est un concept vraiment abstrait auquel on refuse de penser. Le quotidien d'Olga qui les défend dessine donc très concrètement la crise grecque à lire donc dans 21 et cette austérité qui n'en finit pas. D'ailleurs, à propos de la phrase de Michel Sapin qui dit qu'on va peut-être en sortir, le vice-président de la gauche européenne Paolo Ferrero dit dans l'Humanité « J'ignore comment il peut assumer de tels propos ». Et je crois que cet abîme entre les discours et les actes chez les socialistes contribue partout en Europe à la montée des populismes de droite et de l'extrême droite. Responsable donc serait Michel Sapin d'une colère et d'une méfiance d'un peuple qui sort les fourches. Et c'est apparemment de ce peuple en fourche dont les géants de la Silicon Valley ont peur. En tout cas, dans un article du Figaro, on découvre qu'ils sont de plus en plus nombreux à se préparer, mais vraiment concrètement, à l'apocalypse. Peter Thiel, cofondateur de PayPal, soutien de Donald Trump, achète des propriétés en nombre en Nouvelle-Zélande et c'est pas le seul. L'exode des patrons de la Silicon Valley en Nouvelle-Zélande est apparemment un secret de polichinelle. Tout le monde en parle là-bas. Antonio Garcia Martinez, ancien dirigeant de Facebook, il stocke, lui, des générateurs à foison et puis des armes et puis aussi des munitions qui lui permettront de vivre un certain temps dans un monde en lambeaux, tandis que Steve Hoffman, PDG de Reddit, s'est fait, je cite, opérer les yeux au laser pour, il faut le lire pour le croire, si la fin du monde approche, dénicher des lentilles ou des lunettes, ça va devenir une sacrée galère. Sans elle, je suis cuit. Le mec est prévoyant. Ça énerve même un petit peu le directeur technologique de PayPal, Max Levchin, qui dit « D'accord, vous avez peur des fourches du peuple, mais récemment, combien avez-vous donné à des SDF dans la rue ?» Cela dit, et ça m'embête de le dire, mais ils ont un petit peu raison de se préparer à l'apocalypse, ces gens qui habitent en Californie. Dans un article terrifiant édité par la revue Feuilleton, mais qui avait été publié dans le New Yorker l'année dernière, Hélène Schultz raconte qu'au début du XVIIIe siècle, un gigantesque séisme a secoué les terres du Nouveau Monde. Des récits se sont depuis transmis de bouche à oreille et de récents résultats scientifiques sont venus corroborer cette mémoire et prédisent qu'un nouveau tremblement de terre d'une violence rare, plus grosse encore que le Big One, va détruire une portion considérable du littoral nord-ouest des États-Unis. Ça va arriver, reste à savoir quand. Les autorités de la région sont informées mais ne sont pas préparés. Voilà un reportage qui ne donne pas du tout envie d'aller s'installer en Californie, ni en Oregon, ni même dans une grosse partie de l'Ouest américain et qui a été couronné par le prix Pulitzer.
Merci MM, Marie-Missy. Attendez, je voudrais, avec Tito, on va réécouter quand même la phrase que vous avez jugée imbitable. Je suis sûr qu'on va, on va la décortiquer. Redites-la, Tito.
Je vous
reste
la
avec
donne.
Moi.
Tito, vous êtes... voilà. Alors...
On réécoute avec Tito, on va comprendre. Allez-y. Écoutez tout chez vous, je suis sûr qu'il y a une clé dans cette phrase. Allez-y.
Il y aura une translation, un déplacement de l'austérité aux réformes structurelles avec une marge de manœuvre pour les réformes croissantes.
Ça veut dire que ça craint, voilà.
Mais oui, voilà,
c'est vrai.
Merci Tito.
Après l'affaire Fillon, l'Assemblée nationale a publié sur son site internet les noms des collaborateurs parlementaires à l'image de ce qui se fait en fait au Sénat. La liste qui apparaît sous l'onglet « Nos députés » sera régulièrement actualisée selon le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone. François Fillon doit rencontrer Alain Juppé tout à l'heure. Trois mois après sa défaite à la primaire, Alain Juppé s'inquiète d'une trop grande place accordée aux partisans d'une ligne droitière. Le maire de Bordeaux a publié un texte pour demander à François Fillon d'incorporer à son logiciel sa sensibilité de droite modérée. Depuis 2002, François Bayrou a été candidat à chaque présidentielle. Le maire de Pau fera connaître cet après-midi vers 16h30 s'il est ou non une nouvelle fois candidat. Il oscille entre 5 et 6% d'intention de vote. En 2012, il avait recueilli moins de 10% des voix, 9% des voix même d'ailleurs précisément. Le risque est que la France s'habitue à ce que des droits considérés comme acquis soient remis en cause. Propos signé Amnesty International qui juge l'état d'urgence injustifiable, inefficace et détourné de son objectif. L'association publie son rapport annuel ce mercredi. Exceptionnellement à Paris, hein, d'habitude c'est en Grande-Bretagne. Amnesty estime notamment que le contexte préélectoral en France porte un fort écho à son analyse. L'association s'alarme en particulier de la montée des discours politiques xénophobes et extrémistes. Il n'y a pas que la Finlande qui expérimente le revenu universel, il y a aussi l'Allemagne avec une différence. Toutefois, en Finlande, c'est l'État qui est à l'initiative de la mesure. En Allemagne, c'est une association, une asso baptisée Mon Revenu de Base. En 2 ans et demi, cette association a récolté plus d'1 million d'euros, soit assez d'argent pour distribuer un revenu de 1 000 euros par mois pendant un an à 74 personnes. Et s'il n'y avait pas 7 mais 8 continents. Des chercheurs affirment avoir découvert un vaste territoire presque complètement submergé dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, un 8e continent baptisé Zealandia, un territoire de 5 millions de kilomètres carrés dont les parties émergées seraient composées des îles du nord et sud de la Nouvelle-Zélande ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Mis en examen dans une affaire de fraude fiscale, Alexandre Balkany, fils du couple du même nom, est en détention provisoire depuis lundi en raison du
laissez-les tranquilles, arrêtez d'embêter les Balkany, ouais, il y a d'autres familles en France. C'est toujours, c'est pas parce qu'on a tort qu'il faut être...
Enfin, bon. D'accord. À Marrakech.
Comment admettre ?
On leur a pris la petite villa à Marrakech en plus.
Oui, vraiment. Ouais, c'est vrai qu'on tape un peu sur une ambulance. Quoi.
T'as raison, mon
mais oui,
ok, d'accord, c'est trop facile. Je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit, c'est trop facile. Ok. Les patients atteints d'une affection de longue durée, tels certains cancers, pourront se voir prescrire une activité physique adaptée par leur médecin traitant à partir du 1er mars. C'est un décret qui pose les modalités d'application de la mesure dite du sport sur ordonnance. Entre Paris et Monaco, les clubs français font le spectacle en Ligue des Champions. Hier, Monaco s'est incliné 5-3 sur le terrain de Manchester City en 8e de finale aller. Match passionnant, incroyable. Le dernier quart d'heure de la rencontre a été celui de trop pour les Monégasques qui ont donc craqué. Dans l'autre rencontre hier soir, l'Atlético Madrid a mis les Allemands de Leverkusen à genoux. Les Espagnols se sont imposés 4-2 en Allemagne. Suite et fin des 8e de finale aller ce soir avec Porto contre la Juventus et Séville contre Leicester. Il n'y a pas que la Ligue des Champions, il y a aussi de l'Europa League. Saint-Etienne attend Manchester United ce soir, 16e de finale retour. Ça ne va pas être simple, hein, puisqu'au match aller, Zlatan leur en a mis 3. Et puis en Ligue 1, le PSG est attendu à Marseille dimanche. Ce sera sans supporters parisiens. Le préfet a choisi d'interdire leur déplacement en raison d'un risque trop grand de troubles à l'ordre public.
Oui. Comme disait Alexandre Balkany, il avait écrit cette phrase. Il n'y a pas que les grands qui s'aiment. Il n'y a pas que les grands qui ont des sentiments. Je voudrais qu'elle m'embrasse sur les lèvres, pas comme un enfant. Qu'est-ce que tu en dis, Amaniacal?
Ben, je trouve que c'est vraiment... très beau de dire une chose comme ça. Ce que j'aime bien quand je parle, c'est que ça crée une sorte de silence religieux autour de moi. Et toi, tu es où ?
Mais je suis parti parce que pour un tournage au Brésil quelques jours à Maniacal. Et je pense à toi.
Merci. Je fais mon générique.
Tu fais ton petit générique, oui.
D'accord. Mignon, mignon, mignon. Mignon, mignon. Mignon, mignon. Ammoniacal.
Ammoniacal, mi-homme,
mi-pingouin, mi-chiffon. Mais aujourd'hui, enfin, hier, le médecin, enfin non, il y a 3 semaines, le médecin, il m'a dit qu'il fallait que j'arrête de fumer. Parce que j'ai pris feu, parce que ma cigarette, elle a fait prendre feu mon chiffon. Alors, comme j'arrivais pas à arrêter de fumer, il m'a conseillé de mouiller mon chiffon pendant que je fume. Mais j'ai attrapé une otite.
Et je pense qu'à travers ces douleurs, peut-être tu t'es senti plus proche de tous les habitants de ton pays.
Oui, je me suis senti plus proche de tous les habitants de mon pays. Parce que mon pays, c'est un pays où les gens, ils sont tellement différents qu'il n'y a que des minorités. Tous les gens sont des minorités. Alors, tout le monde se sent exclu.
C'est très beau ce que tu dis.
Même les arbres.
Et je sais que même quand tu entres dans les villages et qu'on te jette des pierres, tu n'en veux pas aux gens.
J'essaye de les récupérer pour les revendre.
Les gens ou les pierres?
Je sais pas. Tout ce que je peux avec les pierres, j'essaye de les vendre à des maçons pour qu'ils construisent.
On te fait un très très gros bisou.
Ah bon?
Et on te souhaite une...
C'est tout, c'est un peu...
Oui. T'es payé à la phrase ou quoi?
Non. Et puis, un bisou, c'est pas beaucoup.
Un petit bisou sur la boubouche, alors.
Au moins.
On est avec Jack souvent. Vous êtes en after, Jack, souvent?
Je suis en after. ça fait deux fois que je les croise par hasard. Il y a deux jours, c'était vers la gare d'Austerlitz. Et là, je suis avec Wolfgang, avec Raph, tout ça. On est dans un camion de régie, en fait. Il y a un tournage. Wolfgang, c'est ça ?
Tout à fait.
C'est sur un tournage autrichien ?
Non, français. Sur une série avec Zabou Breitman. Ils sont en train d'éplucher les patates, il y a les oignons qui sont en train de rentrer dans la marmite, et puis on est sur quoi ? Sur du confit de canard. Exactement, confit de canard, écrasé de pommes de terre avec une petite salade.
Ah ben. Donc il y a une scène, un moment où Zabou Breitman arrive vers le confit, il y a un dialogue, comment ça se passe ? C'est un film culinaire ?
Non, en général, ça se passe bien, mais rien de spécial. On est juste à la cantine, ils viennent déjeuner chez nous.
Ah d'accord, donc je croyais que c'était le sujet du film. Donc est-ce qu'ils sont agréables, ils sont gentils les gens des tournages, ils sont...
Oui, toute l'équipe est adorable sur ce tournage.
Vous les faites manger sur le trottoir quand même ?
Oui, bien sûr. On leur met un petit plaid et puis tout le monde s'assoit. Tout se passe bien.
J'aime bien ça, les cantines de tournage. Et puis on aime bien, il y a celui qui reste un peu, il y a celui qui fait un clin d'œil au chef pour qu'il lui sorte sa bouteille de rouge qui est cachée. Il y a plein de petits rituels comme ça.
Exactement, tout à fait. Oui, il vient de s'aérer, là, le rouge.
Je vous passe Raph.
Vous me disiez, Zabou Breitman, il vaut mieux l'avoir au cinéma qu'à table parce qu'elle y va sur la bouteille de rouge, vous me disiez en antenne.
Elle y va sur la bouteille de rouge,
Zabou ? Oh, non,
je ne crois pas du tout, en fait. Non, pas du tout.
Vous avez déjà eu Atmen Khelif dans votre cantine ?
Qui ça ?
Atmen Khelif, un comédien qui joue souvent des rôles de flic.
Non,
ce nom ne vous dit rien du tout, monsieur.
Non, pas du tout.
Ouais, c'est pas grave.
Bon, essayez de nourrir notre Jack souvent. On vous souhaite une très belle journée parce qu'on doit accueillir Grégoire Bizot qui est souvent sur
le plateau. Je vais reparler des Balkany, là, juste. Mais moi, je crois en la justice de mon pays. Je tiens à le dire, voilà.
À tout de suite sous ces portes.
7h, 9h, plus près de toi.
Nova,
plus près de toi.
7h, 9h.
Ça sent le café, la tartine.
En effet, toutes ces odeurs du matin. Toujours ce duplex de France-Brésil. De retour en France avec Thomas Baumgartner face à Grégoire Bizot. Bonjour Grégoire.
Bonjour.
Grégoire, il ne vous croit pas. Il ne croit pas que vous êtes à Rio.
Mais oui, mais parce que les moyens techniques sont si bons. Et puis comme je n'ai pas encore... Mais demain, je vais avoir plein de musiciens avec moi. Comme ça, vous me croirez. Il y aura des musiciens brésiliens qui sont là. Je vais chercher des invités, mais comme il est 4h du matin ici.
C'est vrai aussi.
L'enthousiasme tout à coup tombe un petit peu. Ou alors, je vais tomber sur un fond de clientèle de part dont vous ne voudrez pas.
Grégoire Bizot, oui, de Libération qui vient de nous rendre visite régulièrement dans Plus Près de Toi. Et on parle politique.
L'excellent Libération à la Coluche. Il faut dire l'excellent.
L'excellent Libération. Il y a un point commun. Vous avez réussi, Grégoire Bizot, à réconcilier les différents candidats à la présidentielle. Un point commun entre tous ces candidats, c'est qu'ils, grosso modo, n'aiment pas trop les journalistes.
Ouais, et c'est vrai que ils le disent, ils le mettent en scène, si je puis dire. Alors, on pourrait dire que ce n'est pas complètement neuf. Déjà en 2011, dans les meetings de Nicolas Sarkozy, à la fin de la campagne, il ne faisait pas bon être journaliste. Mais là, aujourd'hui, que ce soit chez Fillon, chez Le Pen, chez Mélenchon, y compris chez Macron, on commence à voir des réflexions sur le commentaire journalistique, etc. Alors, vous allez me dire, est-ce que les journalistes doivent être la seule profession au monde à ne pas être critiqués, à ne pas en prendre plein la gueule ? Surtout pas, parce que je pense qu'elle a quand même des choses à se reprocher. Et c'est clair. Qu'est-ce qu'elle a à se reprocher, cette profession ? Elle a à se reprocher d'être souvent dans un comportement mimétique, d'être d'une sociologie homogène et qui reflète alors absolument pas l'état de la société, sa diversité, que ce soit d'origine ou même de classe sociale professionnelle.
Parfois, les journalistes à la radio invitent des journalistes de la presse écrite.
Oui, il y a une espèce d'entre-soi.
Heureusement qu'il y a un type bourré au Brésil. Grégoire Bizot, c'est ce qu'on me dit sur vous. Il est sympathique, mais il est très homogène comme mec.
Ah non, c'est ça. Il est complètement homogène.
Et... le problème, c'est qu'il y a des métiers qu'on n'aime pas, mais qu'on trouve utiles, comme par exemple dentiste. On n'aime pas y aller, mais on est content. Le problème, c'est que quand on aime plus les journalistes, tout à coup, on nie même que ça soit important, l'information.
C'est là où je voulais en venir. C'est que il y a quelque chose de... Alors, pourquoi aujourd'hui, c'est important, les candidats à la présidence se construisent contre le pouvoir, dit le pouvoir journalistique. C'est une forme D'abord parce que c'est un mot valise, parce que évidemment pour Le Pen, ce pouvoir de la pensée unique n'est pas le même que celui de Mélenchon. Pour Mélenchon, c'est une pensée unique libérale. Pour Le Pen, elle est forcément européenne. Pour Fillon, c'est une casse qui aime avant tout le scandale et les affaires.
C'est comme le système. D'ailleurs, on dit plus trop pensée unique, on dit anti-système.
Voilà, on dit système. C'est comme le système. C'est un mot valise qui vous permet, vous, de vous ériger, si vous voulez, en homme fort contre le courant. Mais voilà, Edouard a parfaitement raison. Le problème, c'est que quand vous balancez le journaliste dans l'eau du bain, il y a aussi la question de l'information qui part avec. Et dans un contexte où on peut dire, un, d'abord que les médias sont relativement faibles. L'affaire Fillon, on a démontré la cuisante illustration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Fillon, malgré ses scandales, malgré des conflits d'intérêts avérés, ben, il s'installe comme un candidat normal. Donc des médias relativement faibles, une profession relativement précarisée, et ben, elle est d'autant plus faible que les critiques sont fortes, évidemment. Et évidemment, sa légitimité, produire de l'information, produire des vraies informations, est remise en question. Et donc là, il y a un espèce d'écosystème un peu malsain qui est en train de se mettre en place, au moment où on commence à se dire l'importance des réseaux, du phénomène des fake news, c'est-à-dire de ces fausses informations, du complotisme. Il y a une espèce de tout se vaut, et finalement, leur vérité, ce n'est qu'une vérité. C'est la théorisation par Donald Trump a été magnifique. C'est-à-dire, c'est votre vérité de journaliste, qui n'est pas la vérité du monde vrai, on va dire. Et donc, dans ce contexte-là, cette critique des médias qui est parfaitement entendable et légitime, il y a quelque chose de très dangereux parce que ça vient vriller, si je puis dire, le socle commun qui fait un peu sens, qui fait un peu vivre ensemble, qui fait un peu démocratie. C'est-à-dire, on parle, est-ce qu'on parle de la même chose tous ensemble? Eh bien ça, c'est en train d'être fragilisé par cette campagne qui prend des tournures de plus en plus inquiétantes. Et pour vous souligner un petit paradoxe, mais qui dit la nature de ce qu'on vit et qui, à mon avis, est un symptôme un peu inquiétant. Quand on est allé enquêter à Aulnay, on a tout de suite été accueillis par les gens des quartiers de manière très hostile. C'est assez classique quand vous enquêtez sur les banlieues. Et on vous dit « Ouais, toi, t'es BFM, t'es BFM, t'es BFM ». Donc casse-toi, BFM n'a rien à faire ici. Sous-entendu, est-ce qu'on peut entendre? C'est-à-dire, vous, c'est l'information spectaculaire, c'est vous venez pour faire des coups, puis vous repartez, voilà. Et en même temps, dans tous les quartiers, dans tous les bars, tabac des quartiers, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que les gens regardent? C'est BFM. Donc il y a un espèce de rapport totalement paradoxal à l'information, aux réseaux sociaux, voilà. On est à la fois consommateur de ce qu'on rejette. Donc,
oui, c'est courant sur la télévision.
C'est vrai.
Regarder pour critiquer. Mais ouais. Vous-même, Grégoire Bizot, journaliste en carte, est-ce que vous êtes hors sol ou est-ce que vous avez une vie comme tout le monde? Est-ce que vous connaissez le prix du croissant au chocolat, du ticket de pain, du calèche
Non, je connais
le. Vous prenez la première dans le métro.
Non, maintenant c'est terminé puisque je roule maintenant en Cadillac et avec chauffeur. Donc c'est vrai que tout ça est un peu loin de moi. Mais par contre, il y a quelque chose. Il faut pas le minorer. Il y a quelque chose d'un peu hors sol. C'est vrai, mais c'est un peu vrai de tous les milieux. C'est-à-dire que quand vous travaillez par exemple, vous êtes journaliste politique. C'est vrai que vous avez l'impression que le monde est régi par la politique. Il y a forcément un espèce de monde qui se referme un petit peu contre. Vous êtes rivé à votre portable, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous vibrez aux déclarations d'Éric Ciotti. Le moindre prout de Marine Le Pen est quelque chose qui vous met en émoi. Donc c'est vrai que vous construisez un monde qui est un monde forcément qui se déconnecte de la réalité des Français. Mais j'ai envie de dire, c'est un danger, c'est-à-dire qu'on nous demande d'être très près de ces gens pour les raconter et en même temps de s'en extraire. Mais c'est un peu, je pense que les médecins aussi vous parlent beaucoup de médecine. Quand vous avez déjeuné avec un médecin, il vous parle de l'ambiance au bloc. Un prof, c'est un peu la même chose. Et voilà, c'est un peu spécifique à tous les milieux quand même. Mais c'est un vrai danger, c'est vrai. Et cette question de le monde clos du journaliste politique n'est pas quelque chose à balayer d'un revers de main parce que c'est une réalité.
Ammoniacal.
Faudrait
peut-être vous ouvrir un appart ou...
Bah, oui, voilà, ça me paraît être une très très belle proposition. Ouvrons la cage aux oiseaux pour que...
Aux journalistes ?
Aux journalistes aussi, oui, pour qu'ils prennent leur envol et qu'ils retrouvent un peu de liberté.
Ah, faut que quelqu'un parle, là.
Je oui, sais oui, pas moi, Edouard ?
Oui. Edouard n'est plus là, manifestement.
Moi, je voulais juste m'excuser par rapport à Moustaki et chanter une petite chanson en son hommage. Je ne savais pas qu'il était mort.
Ah.
C'est une jolie bande de joyeux fêtards qui ne pleurent l'or et se couchent très tard. Ils ne pensent qu'à aimer jouer de la guitare. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. C'est pour Edouard qui s'amuse. Voilà.
Merci.
À très vite.
Merci.
Et vous avez eu l'élégance de chanter faux, ce qui aurait fait très plaisir à Joe. Salut.
7h, 9h, plus près de toi.
Le grand débrief de 8h56. Avons-nous rempli notre office ? Avons-nous rempli notre mission d'accompagner l'auditeur du lever jusqu'à la vraie vie dans ces deux heures fragiles où tout peut basculer ? Avons-nous aidé l'auditeur triste à aller vers le bonheur, le savoir, la sagesse, à grandir ? Arnaud, Atmet,
oui.
Thilo, Thomas, comment vous analyseriez ce matin ?
Je n'ai pas envie de prendre la parole en premier.
On a envie de faire confiance à l'auditeur, je pense qu'il est intelligent.
Je pense qu'il y a eu des publicités parmi les meilleures du mois. Oui. Il y a eu vraiment des voitures ont été proposées. Là, quand même, le travail a été fait. Je pense qu'au niveau, le mot Balkany a été prononcé une quinzaine de fois.
Plusieurs fois.
Et il y a eu le mot Fillon, il n'y a pas eu de prénom. Sur Balkany, maintenant, on est dans les prénoms. On est sur Alexandre, Fillon, on a oublié les prénoms. Donc, ça veut dire que déjà, ça s'éloigne des gens. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? Qu'est-ce que vous avez ressenti, Thito, vous qui êtes venu exprès du lac d'Ourdain pour jouer de la guitare ?
Eh bien, moi, j'ai senti plein de choses positives. Hein. Et on a oublié de parler d'un truc, c'est que chez nous aussi, on a un grand carnaval, c'est Pampelune. Pampelune est aussi gros que le carnaval de Rio. Alors, c'est plus près de chez nous, on peut y aller traîner et courir après les taureaux.
C'est même plus gros, non ?
Oui.
C'est Pampelune, énorme, c'est là où il lâche les taureaux dans la rue.
C'est l'une des plus grosses fêtes du monde, quoi. Hein. Et puis, on a notre Pampelune qui arrive aussi.
C'est 200 textos, 3000 mails d'insultes qui tombent. Ça, c'est toujours bien. Thomas, vous, j'ai senti, il y a eu plusieurs Thomas ce matin. J'ai senti le citoyen, bien sûr. J'ai senti l'homme engagé. Et puis, il y a eu une fragilité d'homme dans certaines questions. Vous parliez de vous et de votre enfance.
Ah, c'était moi ? Je ne me souviens plus.
Oui, c'est une façon détournée, mais il y a
l'enfant,
Thomas. Ah
oui, il y a eu de la métaphore, effectivement.
Quant à Atmen, vous êtes resté focalisé sur cette idée. Moustaki, vous ne saviez pas qui était moi, vous allez lui en reparler. Vous étiez beaucoup dans... Vous aviez envie de vous excuser peut-être d'exister, tout simplement.
Tout simplement, oui, peut-être dans l'excuse et tout. J'ai fait mes excuses un peu à la Bill Clinton et je les ai peut-être ratées, mais c'est vrai.
Quand vous étiez enfant dans le restaurant de votre mère à Albi, on vous donnait la parole beaucoup, enfant, ou il fallait la prendre, cette parole ?
Il fallait la prendre, cette parole, et c'était très très dur. On était beaucoup à table, d'où ma voix éraillée depuis toutes ces années où on doit gueuler pour avoir du pain, du steak, de la semoule et du bouillon.
Et c'est ça, parce que vous étiez... Il y avait une dizaine d'enfants et votre mère faisait exprès qu'il y ait à manger que pour 8 ou 9, pour qu'il y en ait un qui n'est pas et que les autres se battent.
Voilà, et un jour ma mère a pris les enfants et essayé de nous perdre dans la forêt, mais j'avais des petits cailloux blancs qui m'a permis de revenir par Gaillac. J'ai arrêté pour boire un petit coup de blanc à Gaillac et on a pu revenir à Albi avec mes petits cailloux blancs, voilà. Je n'ai pas de chute à cette phrase, ni à cette histoire.
À Modiacal, ça s'est bien passé aussi.
Oui, j'ai bien aimé ce que j'ai fait. Je trouve que j'aime bien ce que je fais en général parce que je trouve que je suis sensible et assez pertinent. Alors, et tu vas revenir ?
Je vais revenir, bien sûr, parce que ce truc du plex est très bizarre. Je serai encore demain en direct du Brésil, mais je serai là lundi. Je vous embrasse très fort. Très bonne journée à tous. Et voici les 30 glorieuses après Thierry Paré.
Bisous.
Hasta luego !
Edouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.